Je vous souhaite une bonne après-midi et je vous invite à entamer le débat qui est donc un moment de cette conférence de lancement du réseau sur les politiques de diaspora. Et le débat de cet après-midi porte sur les relations avec les pays d'origine et la participation démocratique de la diaspora. Je voudrais saluer tous ceux qui sont ici, notamment Monsieur le ministre Eduardo Cabrita. Je voudrais saluer également les autres orateurs de cette séance, Madame Yushchenko et Monsieur Kousoukin, qui interviendront au cours de cette séance. Je suis très fière de pouvoir participer à cette conférence qui de lancement du réseau parlementaire sur les politiques relatives aux diasporas. C'est un sujet que j'ai suivi au sein de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, mais au sein de cette assemblée-ci, l'Assemblée parlementaire. En tant que député des Portugais vivant à l'étranger et en tant que député de la Commission des affaires étrangères et des communautés portugaises. La question des diasporas, des migrations est toujours plus présente dans notre monde global où la mobilité des citoyens va en s'accroissant. Et c'est une réalité de taille. Et il est important que nous puissions reconnaître le principe de la mobilité des personnes et comprendre que nos pays, tout comme les miens, sont des pays qui se distribuent de par le monde et que nous devons être reconnus et qu'on plante des politiques, on doit reconnaître ce sujet de débat dans le pays d'origine comme dans le pays d'accueil. La question de la participation civile et politique des citoyens, notamment celle des Européens qui vivent à l'étranger a déjà été débattu dans différentes enceintes, mais le Portugal est un pionnier dans ce domaine, car depuis l'instauration de la démocratie, on a créé les conditions pour la participation de nos expatriés dans les institutions ici au Portugal. Donc, il est important que cette réunion se tienne ici au Portugal, dans notre Parlement, où depuis des décennies, il y a des parlementaires qui représentent les Portugais expatriés dans notre pays. Au Portugal, les résidents qui résident à l'étranger peuvent participer aux élections présidentielles, aux législatives, 4 députés et dans les élections européennes. Ils ne peuvent pas voter dans les élections municipales, mais elles peuvent être candidats pour ces élections. Et on a créé dans les années 80 un conseil consultatif auprès du gouvernement qui ressemble au Conseil des Français à l'étranger, et c'est un organe dont les décisions ne sont pas contraignantes, mais qui travaille sur les politiques pour les Portugais à l'étranger. Et récemment, cette Assemblée a approuvé des propositions pour que les Portugais puissent faire partie du Conseil national de l'éducation portugais, du Conseil économique et social qui définissent des politiques pour notre pays et également au Conseil de la radio et de la télévision portugaise. Donc on y retrouve des Portugais de l'étranger. Le Portugal, et il faut le dire, est un pays qui est reconnu pour la façon dont il permet la participation politique des étrangers sur notre territoire, mais je pense qu'à cet égard, Monsieur le ministre Cabrita, qui, du fait de son portefeuille, aura une vision plus élargie de ce thème, et il l'évoquera certainement au cours de son intervention. Aujourd'hui sont réunies des personnes qui interviennent de façon marquante dans ce domaine, et je passe au français.
Plus des mots très sympathiques à mon égard dans son intervention de ce matin. Il veut dire qu'on peut avoir des politiques, mais il faut avoir des hommes politiques sur le terrain qui puissent accomplir ce qu'on pense bien pour nos citoyens ou pour les étrangers qui vivent dans nos pays. Je peux témoigner du travail que M. Roquet a fait dans sa commune, dans sa ville, et sincèrement, c'est un grand exemple comment on peut, dans une ville où il y a plusieurs communautés, tout le monde travaille ensemble et que tout le monde se sente bien. Pour isso, e agora novamente...
C'est pourquoi, j'en reviens au portugais, et l'enjeu et l'importance de la participation civique et politique au Portugal. Nous avons vu que lorsque le vote est exercé par les étrangers, le lien à notre pays est renforcé. Et nous savons que l'inverse est vrai. Lorsque des Portugais peuvent voter eux à l'étranger, le lien est également renforcé. Et nous avons trois orateurs qui connaissent fort bien le sujet. Je vais donner la parole en premier lieu à quelqu'un qui a une grande expérience dans ce domaine. Et je vais donner la parole à M. Talib Koussouksaou, dont j'espère ne pas avoir écorché le nom. C'est le président de la délégation turque auprès de la PCE. Il a un master d'une université de Londres. Il est doctorant de l'université de Warwick en relations ethniques et il travaille dans le domaine des relations ethniques à l'université de Marmara où il est professeur titulaire. Jusqu'en 2015, il a été rédacteur de la revue Inside Turkey, et puis depuis 2014, il dirige un institut de recherche sur le Moyen-Orient de la même université, l'université de Marmara. Il est spécialiste en relations internationales, notamment en ce qui concerne le Moyen-Orient, les relations entre la Turquie et l'Union européenne, les migrations transnationales, la liberté de religion à l'échelle internationale et en particulier pour ce qui est des minorités musulmanes en Europe. Je demande donc à M. Koussouksaou de prendre la parole et il peut, s'il le veut, s'adresser à l'Assemblée depuis la tribune qui est à sa gauche. Merci.
Well, Mr. Chair, thank you very much for your...
Président, merci de vos paroles d'introduction qui me vont droit au cœur. Permettez-moi d'abord de remercier nos hôtes portugais. Nous sommes ici au sein de ce Parlement qui nous donne la possibilité de nous réunir sur un sujet très important dont nous avons parlé depuis ce matin. Je souhaiterais en profiter pour remercier aussi les organisateurs de la conférence de m'avoir invité en qualité de chef de la délégation turque pour partager ma vision des flux migratoires en Europe et ailleurs. Au moment où j'ai reçu l'invitation, j'ai été très heureux de me dire que je l'accepterais pour plusieurs raisons. Premièrement, il s'agit là de mon intérêt personnel. J'ai étudié les migrations, j'ai étudié les communautés turques en Europe, la participation des musulmans, etc. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, mon pays. Mon pays est un pays qui était en voie de développement depuis la décennie des années 60. Aujourd'hui, il y a une diaspora de 6 millions de Turcs, principalement en Europe, mais aussi ailleurs. Donc, tout ce qui peut se rapporter aux études de la diaspora sont particulièrement significatifs et pertinents pour la Turquie, que ce soit à l'OSCE, au Conseil de l'Europe ou à l'OTAN, la Turquie prend ces questions comme étant particulièrement importantes. Autre chose non évoquée ce matin, la Turquie est aussi un pays qui reçoit, un pays hôte, le nombre le plus important de réfugiés dans le monde, c'est-à-dire presque 3 millions venant principalement de Syrie, qui se retrouvent en Turquie, ce qui est un autre défi, ce qui apporte d'autres discussions et la nécessité de réfléchir au partage. Les questions afférentes à la migration aux réfugiés ne peuvent absolument pas incomber à un État seul. Nous l'avons vu à travers les siècles, à travers l'histoire. Un certain nombre de personnes sont déracinées, se retrouvent dans un pays donné et puis vont dans d'autres. Nous avons vu l'énormité de cette crise et comment elle a impacté l'Europe au cours des années qui viennent de s'écouler. Je souhaiterais aussi revenir sur quelques informations concernant la Syrie, mais ça sera la suite de mon exposé. Ce matin, d'excellents orateurs parlaient de la migration comme phénomène mondial qui impacte sur les structures démographiques, culturelles et économiques. Et ça concerne beaucoup de sociétés aujourd'hui. Bien qu'il y ait une recrudescence de populisme et de protectionnisme au cours des années précédentes, nous voyons qu'il y a aussi de nombreux mouvements de personnes, de biens, de services. Donc nous sommes dans un monde collecté, qu'on appellera le monde global ou le monde transnational. Et je pense que cette tendance va se confirmer. Quelle que soit la tentative de protéger nos frontières, d'empêcher la migration ici ou là, celle-ci se poursuivra. C'est Willem qui ce matin disait qu'il peut y avoir plus dans certains pays des litiges, des crises. On voit à Myanmar aujourd'hui, par exemple, la fuite de plus de 120 000 personnes. Il y a plus de millions de musulmans dans ce pays. Comment ça va être traité? La question reste entière. Et en fait, il y a un certain nombre de personnes qui devraient se pencher sur la question. Ce que j'essaye de faire dans cet exposé, c'est d'atteindre un double objectif. Premièrement, la participation entière et totale de la diaspora des pays hôtes. La plupart de ces personnes sont naturalisées, deviennent des citoyens à part entière, bien évidemment ont la possibilité de participer et d'être représentées, de représenter au niveau politique les communautés dans le pays de réception. Doit se faire dans le cadre des référendums, par exemple. La participation politique au niveau politique de la diaspora doit se faire avec l'impact des diasporas transnationales sur les économies locales. Nous avons écouté la situation particulière des Syriens, des Palestiniens, lesquels vivent dans un monde transnational dans lequel il y a des réseaux, et des réseaux qui se répercutent les uns sur les autres. Et quoi que ce soit qui se passe en Israël, en Ukraine, en Pologne ou ailleurs, crée une résonance dans d'autres parties de l'Europe aussi. Ce matin, il a été dit aussi que tout ce qui a trait à la migration est perçu aujourd'hui comme étant toxique. Il faut repenser la question. Si on ne n'arrête pas cette discrimination, nous ne serons pas en mesure de traiter la question de manière rationnelle. Et si nous ne pouvons pas appliquer de la rationalité au traitement de la question avec des propositions concrètes, eh bien la situation va se dégrader. Si l'on perçoit les choses sur le plan affectif ou émotionnel et qu'on ne le regarde que sous le prisme de l'intérêt d'une seule nation, je ne pense pas que nous soyons en mesure de faire des progrès en matière de traitement des flux migratoires. Chacun d'entre nous conviendront volontiers que la participation politique est un droit fondamental pour tout citoyen. La citoyenneté peut s'acquérir par différents canaux. Vous pouvez être né et élevé quelque part et acquérir la nationalité, ou vous êtes l'enfant d'une certaine famille possédant déjà la nationalité, mais donc différentes sortes de nationalités, mais dans l'Est, dans l'Ouest, dans les pays développés ou en développement. Il s'agit de droits universels applicables de manière transversale à tout le monde et qui reprennent dans tous les documents le droit de vivre, le droit de travailler, de voyager, le droit à un procès équitable, le droit à accéder à la propriété, la liberté d'expression, la liberté de croyance et de religion. Et me semble-t-il, un droit particulièrement important, c'est la participation à la sphère politique et la représentation. On a tous le droit de participer à la politique à différents niveaux. Si on prend ce prisme-là, par cet angle-là, on s'aperçoit que l'Europe, et notamment dans un certain nombre de pays de l'Union européenne, qu'il y a des diasporas, des communautés très établies d'Europe de l'Est, de Grèce, dans le passé, d'Italie, voire l'Espagne, d'autres pays européens, mais aussi de mon pays, la Turquie. Plus de 5 millions de Turcs participent de la diaspora et sont éparpillés partout en Europe, peut-être pas au Portugal, peut-être pas dans certaines parties de l'Europe, mais en tout cas en Allemagne, aux Pays-Bas, en France. Donc ce sont des pays dans lesquels vivent la plupart des Turcs. Quand on regarde la participation politique des Turcs dans la politique locale, eh bien on voit un frémissement prometteur, plus particulièrement pour la nouvelle génération, troisième, quatrième génération. Meilleure éducation, ils connaissent la langue, ils connaissent les systèmes, et l'atmosphère politique s'y prête. pour une participation plus importante. Dans les élections locales, nous voyons qu'il y a plus de motivation et qu'il y a un nombre croissant de personnes d'origine de la migration, pas nécessairement la Turquie, Maroc, Algérie, d'autres endroits encore, qui connaissent un véritable développement, une véritable évolution pour ce qui est de la participation politique locale. Il y a une vingtaine, une trentaine d'années, c'était impensable. On ne pouvait pas imaginer de personnes qui soient encouragées par les systèmes, qui soient suffisamment confiants en eux pour se présenter, porter sa candidature. C'était une chose différente. Mais aujourd'hui, c'est une nouvelle génération dont il est question, qui savent comment faire respecter leurs droits. Et ça, c'est quelque chose qui a trait à l'autonomisation des migrants. Si vous formez ces migrants, si vous leur donnez confiance, de sorte à ce qu'ils puissent réclamer la mise en œuvre de leurs droits. C'est très important, ça, de pouvoir se prévaloir de ces droits. Et l'un des éléments, c'est la participation politique et la représentation. C'est-à-dire de devenir membre du Parlement, membre du Sénat, membre de différentes entités et institutions ou corps nationaux qui participent de la prise de position politique globale. Au cours des 10 dernières années, nous avons pu voir qu'il y a de plus en plus de migrants d'origine externe qui effectivement participent à la politique locale. Pour ce qui est de la politique nationale du pays hôte, eh bien, plus difficile de dire la même chose ou de le dire en étant aussi confiant. Parce qu'il y a encore beaucoup d'obstacles pour ce qui est de la participation politique de beaucoup de jeunes. Bien sûr, il y a maintenant une représentation au sein des parlements nationaux. Par exemple, au Royaume-Uni ou la France, dernières élections, je sais que des tas de gens d'origine étrangère sont représentés. C'est-à-dire que ça s'est amélioré, mais c'est pas suffisant. Quand on regarde les personnes d'origine étrangère, en France par exemple, eh bien on peut dire que 20% de la population est issue des rangs de l'immigration. Mais quand on regarde la représentation en politique, quel est le pourcentage? Eh bien, insignifiant. C'est d'ailleurs valable pour l'Allemagne et pour d'autres pays européens. Il n'y a pas véritablement d'égalité entre le pourcentage de personnes concernées et la représentation. Donc, il faut trouver le moyen d'encourager les gens issus des communautés de migration pour participer au Parlement et aux organes de prise de décision. Bien sûr, nous saluons de nouvelles évolutions. Qui sont porteuses d'optimisme. Et nous sommes impatients de voir encore d'autres évolutions. On voit qu'il y a des jeunes qui sont là, qui viennent d'ONG. Il y a certaines ONG d'ailleurs qui deviennent très importantes, très influentes et qui se rangent dans la voie royale. Mais ce sont des évolutions desquelles il faut prendre compte, Donc, meilleure représentation, des populations migrantes, de sorte à pouvoir accélérer le mouvement en la matière. Alors, quand on regarde les pays et les listes, pour essayer de comprendre le côté adéquat de la façon dont se déploie la participation politique, on voit qu'il y a différentes situations. Dans certains pays, il y a plus de questions d'ordre idéaliste. Dans d'autres, c'est plus l'intégration qui compte. Est-ce que ça a une incidence sur la façon dont se perçoivent les gens dans un environnement politique et comment ils se raccordent à la société dans sa totalité? Je crois que là, il est question de questions clés. L'intégration, le sentiment d'appartenance à une entité nationale, à une communauté, ce ne sont pas des questions théoriques, mais des questions de fond, si l'on souhaite voir prévaloir l'intégration et la participation politique. Voilà pour la participation des migrants. Mais c'est tout à fait remarquable dans certains pays, mais au niveau national, ce n'est pas encore très fort comme tendance. Au niveau local, c'est mieux, mais d'autres mesures doivent être entreprises, notamment pour encourager les personnes émanant de groupes moins représentés pour qu'ils se fondent à la voie royale. Ceux-là même qui ont été tenus à l'écart des prises de décisions politiques. Les gens décident de leur avenir à travers les élections, à travers le Parlement, à travers les représentations, à travers tous ces processus démocratiques. Deuxième partie, deuxième chapitre de mon exposé, c'est les processus électoraux dans un certain nombre de pays. On parlait des diasporas, lesquelles, compte tenu de la mondialisation, des médias, des réseaux transnationaux, ont des liens avec leur pays d'origine. Peut-être que les troisième, quatrième générations peuvent avoir des problèmes d'identité, peuvent avoir du mal à se raccorder au pays d'origine. Mais enfin, il y a ceux d'Algérie, ceux qui viennent du Maroc, d'Algérie, Pakistan, qui portent un morceau de leur pays. Et s'ils ont la possibilité de participer à des élections, ils le feront. J'ai ici une liste précisant que dans les élections présidentielles, des membres de la diaspora de 64 pays ont la possibilité de participer à des élections présidentielles dans leur pays, et ça se passe. Dans les élections législatives, c'est encore plus vrai. Dans 90 pays, il y a des mécanismes qui permettent de voter. Donc les relations entre les communautés diaspora et les communautés locales. Ce matin, on disait que les pays d'origine devraient aussi s'asseoir autour de la table. On ne peut pas séparer ça de la diaspora, du pays d'accueil, du pays hôte, enfin du pays hôte ou du pays d'origine. Il y a évidemment des facilités au niveau des réseaux de communication qui deviennent de plus en plus profondes. On regarde des satellites, on regarde des cultures populaires et on ne peut qu'en faire le constat. Donc, participer au pays hôte et sa politique interne. Il y a beaucoup de façons de participer à la politique. Que l'on vive à Paris, à Londres, à Berlin, finalement, on peut se demander pourquoi ils devraient voter pour les politiciens ou les questions politiques afférentes à leur pays d'origine. Je crois qu'il faudrait faciliter ceci. Il faudrait insister pour la protection, l'exercice de ce droit de manière adéquate. S'il y a participation à la diaspora dans les pays de départ, il faut aussi répondre à des questions, la propagande, le droit de se réunir, de tenir des meetings politiques à Berlin, à Paris, à Londres, ailleurs, pour parler de la politique dans leur pays. Mais ça pose problème dans les dernières élections. C'est d'ailleurs une des questions que je souhaiterais vous proposer. Et ensuite, j'accélérerai le 16 avril de cette année. Il y a eu un référendum en Turquie. Les politiciens turcs et la diaspora turque d'Europe ont décidé de se réunir pour faire une décision dûment consciente et informée à propos de la constitution de la Turquie. Alors, je ne veux absolument pas jeter l'opprobre ou quoi que ce soit de cet ordre, mais certains pays européens n'ont pas permis aux représentants politiques turcs et aux membres de la diaspora de venir discuter avec eux des changements constitutionnels. Certains ministres turcs ont entravé la rencontre avec les politiciens, le droit de se réunir, le droit de tenir des réunions politiques. Et d'ailleurs, ça s'est discuté au niveau même du Conseil de l'Europe, ce qui est tout à fait dommage. Je crois qu'il est très important que n'entrave pas la participation politique, laquelle est un élément clé pour devenir un véritable citoyen jouissant de l'exercice de tous ses droits. Recommandation en guise de conclusion, qu'en est-il de l'avenir et qu'est-ce qu'on peut mettre dans la déclaration ? Premièrement, je crois qu'il est important comme on l'a dit ce matin, il faut changer le discours, il faut changer le fil narratif. Il est très important que l'on arrête la ségrégation dans la façon de traiter les questions de la migration. Que ce soit à Londres ou ailleurs, tout le monde met l'opprobre sur les communautés. Je crois qu'il est très important que l'on puisse arrêter de jeter l'opprobre sur des individus, sur la communauté. Très important de faire cela et de réfléchir aussi à certaines lois de discrimination, du populisme et de certains groupes. Sinon, il y aura difficulté pour les politiques d'intégration. Et puis ensuite, les politiques qui concernent les citoyens. Ça fait partie de ces questions sur lesquelles il est très important de travailler pour favoriser l'intégration des migrants. Bien évidemment, plus d'investissements doivent être faits pour une société d'intégration à travers le discours, à travers l'éducation, à travers les contacts avec le pays d'accueil, lutter contre le racisme, la discrimination, la xénophobie, l'aliénation des jeunes, et plus particulièrement de cette jeunesse qui trouve difficilement sa place dans la société, et plus particulièrement ces années qui viennent de s'écouler. Donc plus de coopération est nécessaire avec les ONG, les universités, les représentants de la société civile. Nous avons, avec ces recommandations, presque fait le tour du tableau, mais j'aimerais revenir sur les rapports Syrie-Turquie. La Turquie accueille à l'heure actuelle 3 millions, 2,9 de Syrie, le reste du Pakistan, Afghanistan, Irak. Et ça a évidemment une incidence sur la politique turque et sur la politique internationale. Ça a un coût social, un coût politique, un coût économique. Nous avons bien travaillé jusqu'à maintenant, mais les plus gros défis sont encore à venir. Il s'agit de milliards de dollars qui ont été dépensés par nous seuls. Il y a accord avec l'Union européenne, mais très malheureusement, très peu des fonds qui étaient destinés à ça ont pu arriver à la Turquie. Il y a donc beaucoup de défis. Il y a aujourd'hui plus de 600 000 enfants d'âge scolarisable d'origine syrienne en Turquie. Et simplement 200 000 parmi eux vont à l'école. Mais le gouvernement a décidé que chacun doit accéder à l'école. Mais ça pose problème au niveau des infrastructures scolaires, par exemple. Plus de 200 000 enfants sont nés en Syrie. 200 000 nés en Syrie. Bien évidemment, ils deviennent citoyens. Mais si on ne coopère pas, si on laisse le pays seul face à ses responsabilités, eh bien ça risque d'avoir des implications pour le monde entier et pas seulement pour mon pays. Merci beaucoup. Merci de votre écoute attentive.
Merci beaucoup de cette intervention si intéressante. Je vous remercie d'avoir limité un peu votre intervention. Notre temps est compté et nous aimerions que tous puissent prendre la parole. J'aimerais donner maintenant la parole à Madame Catherine Yushchenko, qui était l'épouse du président Yushchenko. Elle est présidente d'une fondation qui stimule la participation civique dans le domaine de la santé et des arts, entre autres. Elle est présidente d'une université bancaire en Ukraine où elle enseigne la responsabilité sociale. Elle est fille des migrants ukrainiens qui se sont rendus aux États-Unis et elle dirige la US Ukraine Foundation qui appuie la transition vers la démocratie dans son pays. Merci. Mesdames et messieurs, c'est un honneur que de participer à ce forum si important dont le but est de créer un réseau sur les politiques, un réseau parlementaire sur les politiques de diaspora. C'est un grand plaisir également que d'être ici à Lisbonne où je me suis rendue en 2010 avec mon mari pour une visite d'État. Nous avions été très imprimés par les politiques du Portugal par rapport aux diasporas. Nous voulons voulons remercier le gouvernement et le portugais, le Parlement et le gouvernement portugais de l'accueil réservé à nos ressortissants qui forment une communauté très vibrante ici. J'ai travaillé sur les questions de diaspora toute ma vie. Pour la première partie à l'étranger et ensuite en Ukraine. C'est pourquoi cette initiative qui nous réunit ici aujourd'hui est une façon formidable de permettre aux communautés diasporiques de jouer un rôle plus marquant et plus positif dans leur pays d'origine et dans leur pays d'accueil. Ce réseau apprendra grâce à un dialogue plus efficace, davantage de coopération et de coordination. Je salue cette initiative et je suis certain que les organisations de la diaspora ukrainienne en Europe joueront un rôle actif et constructif. Mon expérience reflète la vie de la diaspora ukrainienne. Mes parents, qui sont nés tout après l'établissement de l'Ukraine soviétique, ont été emmenés comme travailleurs en Allemagne en 1941 et en 1950. Ils sont devenus partie de la deuxième vague d'immigrants vers les États-Unis. En 1920, cette communauté aux États-Unis a établi des écoles, des églises, des mutuelles, des organisations de jeunesse et des institutions dans les pays qui les avaient accueillis. Ils ont réuni des fonds et créé un institut de recherche à Harvard. Ils ont élevé leurs enfants et qui ont maintenu leur lien avec leur pays d'origine et une responsabilité politique pour informer le monde du sort de leur nation captive de l'Union soviétique. Nos communautés partout dans le monde ont travaillé sur les questions de droits humains, leurs transgressions en Ukraine et ont participé à la lutte pour notre indépendance. Au Canada, député venant d'Ukraine a permis aux membres de la diaspora à préserver leur culture et leur tradition. Et c'est un modèle de diversité et de tolérance. À cette époque, l'interaction directe avec l'Ukraine était réduite à la portion congrue. Nos familles envoyaient des colis à leurs familles au pays qui étaient taxés par le gouvernement soviétique très lourdement. Je fréquentais l'école ukrainienne, des groupes et des danses des classes de danse à Chicago et j'ai reçu un prêt d'une mutuelle ukrainienne et mon premier emploi était en tant que directeur du bureau de la commission du Congrès ukrainien de l'Amérique où nous travaillons sur les questions ukrainiennes en étroite collaboration avec le Congrès mondial des Ukrainiens. En 1988, j'ai travaillé auprès de la Maison-Blanche qu'occupait le président Reagan en tant qu'agent de liaison avec les groupes ethniques et nous essayions de lancer des passerelles entre les organisations d'origine ethnique et l'administration. Après 6 tentatives de devenir indépendante au cours du XXe siècle, l'Ukraine a finalement abouti dans ce but en 1991. À ce moment, le rôle de la diaspora a évolué. Il ne s'agissait plus de préserver seulement la culture et la langue, mais travailler pour construire la démocratie. Au cours des 2 premières décennies de l'existence de l'Ukraine, les diasporas de par le monde ont aidé l'Ukraine avec leurs compétences en matière de construction de la nation pour conseiller le Parlement ukrainien, pour créer des capacités, pour créer des organisations du secteur social, humanitaire, pédagogique et culturel pour être observateur lors d'élections. Et lorsque les Ukrainiens ont commencé d'émigrer pour trouver du travail à l'étranger, nombre des anciennes organisations sont vues renouvelées avec de nouveaux talents et de nouvelles idées. Et les écoles et les églises se sont à nouveau remplies. Moi, avec d'autres membres de la diaspora, je me suis rendue en Ukraine même avant le putsch de 1991 à Moscou. Et nous prêtions main forme aux parlementaires pour traduire les nouvelles des lois. Nous organisons des visites d'études sur des questions comme l'agriculture, la reconversion de l'industrie de défense et la banque. Ensuite, la Fondation a créé des programmes pour encourager le développement des municipalités et l'échange entre municipalités en aidant les Ukrainiens à traiter de questions telles que la gestion, le budget, les questions environnementales. Nous avons également une société, une organisation qui s'appelle Aidez-nous à aider les enfants, qui a dégagé des millions pour les orphelins et des supports pédagogiques. Et il y a d'autres exemples de cette participation de la diaspora, comme le Fonds pour les enfants de Tchernobyl, qui a réuni des dizaines de millions de dollars pour aider ces enfants dans les hôpitaux. Nous avons également créé des nouvelles écoles et nous avons également créé des universités catholiques et le recteur était un diplômé de Harvard. Et lorsque mon pays est devenu président du pays avec l'assistance de l'Ukraine et de l'étranger, nous avons créé la Fondation Ukraine 3000 qui aide les Ukrainiens à résoudre des questions sociales dans une perspective ascendante dans le domaine de la santé, de l'éducation, de l'histoire et des arts. En 2013, les Ukrainiens sont descendus dans la rue pour exiger le droit de devenir partie de l'Europe et pour protéger contre la corruption. Ils ont été soutenus par la diaspora en Europe et dans d'autres pays qui ont participé à de grandes manifestations et à une sensibilisation dans le monde entier, notamment après l'annexation de la Crimée par la Russie et l'invasion de nos terres orientale. Nous avons manifesté de façon sans pareil dans le monde. Et ceci grâce à différents facteurs. Un facteur de génération de jeunes gens qui n'étaient pas portaient pas la charge de l'héritage soviétique ont occupé des positions importantes en Ukraine et dans la diaspora. Parfois, il y a eu une résistance de la part des anciennes structures. Alors, ils ont simplement créé de nouvelles organisations. Ils étaient également des médiateurs dans cette deuxième phase grâce à l'accès aux technologies, aux réseaux sociaux, aux communications et à des transports meilleur marché. Ensuite, dans nous avons également des déplacements très importants de personnes à l'interne et extérieur dans notre pays. Nous avons plusieurs millions de personnes qui sont déplacées suite à la guerre. Beaucoup de ceux qui sont partis à l'étranger étaient des personnes très instruites qui ont quitté le pays non seulement pour obtenir de meilleurs salaires, mais pour pouvoir jouer un rôle et appuyer des graines à partir de l'étranger. Au cours des dernières années, la diaspora ukrainienne est devenue de plus en plus active et joue un rôle de plus en plus important dans notre pays. Il y a également la question de l'envoi des fonds. En 2016, 5,4 milliards de dollars, ce qui représente environ 6% de notre PIB. Mais notre diaspora fournit non seulement une aide financière, mais également un capital social et humain. En 2014, la diaspora dans toute l'Europe et dans d'autres pays a lutté pour sensibiliser les autres pays à la situation de notre pays. Nous avons fait des pressions pour des sanctions, pour un accord de libre-échange. Nous avons également réuni des fonds pour réhabiliter nos soldats, appuyer les orphelins de guerre et avec des fonds américains. Nous avons lancé des projets pour lutter contre la corruption et appuyer la croissance économique en Europe en créant quelque chose qui s'appelle Prosoran, un système en ligne pour assurer la transparence dans les marchés publics, le financement des entreprises sociales, 4 millions pour de nouvelles entreprises sociales durables, une académie du leadership, 100 diplômés par année, et une organisation qui s'appelle Go Global qui enseigne l'anglais dans tout le pays. Et puis, nous travaillons dans des think tanks comme l'Atlantic Council afin de mieux analyser la réalité ukrainienne et lutter contre la désinformation et les fausses nouvelles à propos de notre pays. Un nouveau concept dans notre pays, c'est Connect Ukraine, qui est conçu et dirigé par de jeunes Ukrainiens de la diaspora et qui, à partir d'endroits comme la Norvège, l'Irlande et la Silicon Valley, et qui se réunissent pour des forums, des hackathons, des ateliers qui réunissent de jeunes entrepreneurs, des technologistes créatifs, des hackers éthiques afin de créer de nouveaux projets et trouver des financements. Et la diaspora en France a créé Global Ukraine, une plateforme qui a pour but de lier plusieurs professions dans différents pays, qu'il s'agisse de l'éducation, des entreprises, de la technologie, pour partager l'information sur les efforts d'assistante et pour promouvoir les marques ukrainiennes à l'étranger et fournir des possibilités d'emploi en Ukraine et dans les pays de la diaspora. L'Ukraine, comme bien d'autres pays qui ont connu des difficultés politiques et économiques, a connu une grande émigration et des millions d'Ukrainiens forment la diaspora à l'étranger, environ 20 millions. Beaucoup d'entre eux ont des connaissances qui sont importantes dans notre pays. Il nous faut donc encourager un échange de la matière grise plutôt qu'un exode des cerveaux pour pouvoir capitaliser sur les bonnes pratiques, l'expertise, l'expérience et l'engagement personnel et auprès des familles et du pays d'origine. Il nous faut canaliser toutes ces compétences pour résoudre notre problème. Nous sommes aidés dans cet effort grâce à les technologies de communication, les transports et la mobilisation qui fait que la mobilisation de ressources humaines est plus simple. La géographie n'est plus à cesser de définir l'identité comme autrefois. Notre gouvernement et le Parlement doivent miser sur ces ressources qui sont financières mais aussi humaines pour créer des pivots technologiques, des incubateurs d'entreprises, des investissements de portefeuille direct, le transfert des technologies, accroître l'accès au marché et notamment la sous-traitance. Nous devons également réformer notre système d'enseignement à l'école et aux universités de telle sorte que nos étudiants soient mieux préparés pour les enjeux du 21e siècle et remplacer les écoles de type soviétique avec d'autres qui mettent l'accent sur le leadership, l'initiative, la prise de risque. Il nous faut enseigner les langues étrangères et ce qu'on appelle le codage, qui est ce que pour les nouvelles générations ce qu'était la dactylo. Il nous faut également lutter contre la désinformation. Et pour atteindre tous ces buts, l'action du gouvernement et du Parlement dans notre pays est essentielle, et également le rôle du réseau parlementaire sur les politiques de diaspora qui voit le jour ici. Je voudrais évoquer quelques domaines pour que nous puissions aboutir aux 3 E dont parlait M. Lucy Swing. Premièrement, il nous faut un plan stratégique pour mieux réaliser le potentiel de nos diasporas, ce qui peut être fait pour l'Ukraine et à l'étranger, et comment avoir un impact positif sur l'Ukraine et également dans leurs pays hôtes. Des pays comme l'Israël, l'Inde, le Liban, l'Arménie ont également ces modèles à suivre. Il faut accroître la participation des représentants des diasporas dans différents projets dans ces pays. Ensuite, les gouvernements doivent encourager l'investissement en abaissant les barrières devant les virements d'argent, la création de l'ouverture de comptes en banque et accroître les partenariats et revoir les politiques en matière de double nationalité et avoir des exigences plus souples en la matière et créer des volontaires pour la paix venus de la diaspora comme par exemple ce qu'a créé le PNUD. On pourrait également placer des experts de la diaspora dans des régions où leurs connaissances sont nécessaires. Je me réjouis de notre débat sur les nombreuses manières dont les gouvernements et les parlements peuvent travailler ensemble pour faire avancer les politiques nationales pour la promotion des diasporas dans la vie politique, le changement démocratique et la croissance économique. Merci.
Muito obrigado pela sua intervenção. Dava agora a palavra ao seu ministro adjunto, Dr. Eduardo Cabrita, que é ministro, já foi ministro
Du cabinet du Premier ministre. Il était ministre aussi, il est aussi membre du Parlement. Vous avez la parole.
Presidente deste painel.
Monsieur le Président, Monsieur Gonçalves, mes chers collègues, chers amis réunis autour de cette table, à cette tribune, mesdames et messieurs les représentants des parlements des pays membres du Conseil de l'Europe, mesdames et messieurs, permettez-moi de démarrer au nom du gouvernement portugais en vous saluant et en vous souhaitant la bienvenue au Portugal. J'espère que le travail que nous allons entreprendre ensemble sera fructueux, parce que ceci est aussi une priorité pour le gouvernement.
Il s'agit de l'affirmation de la citoyenneté, l'affirmation de l'intégration des communautés migrantes dans un contexte global. Ceci parce que notre pays est un pays accueillant, un pays qui se distingue par sa tolérance et par sa capacité à recevoir des peuples venus d'autres latitudes. Le Portugal, pour ce qui est de ce thème, et je voudrais saluer à cet égard l'Assemblée parlementaire d'avoir voulu constituer cette plateforme que l'on pourrait dire de suivi des diasporas. Le Portugal, disais-je, est à cet égard un pays exemplaire et particulier par rapport à la façon dont il se positionne sur ce sujet. Nous sommes un pays qui, il y a 5 siècles de cela, comme le disent beaucoup, nous avons été les pionniers de la globalisation. Nous étions un petit peuple qui ne comptait qu'1,5 million d'habitants au XVe siècle. Et ce petit pays est allé jusqu'en Amérique et jusqu'au Japon. La continuité de la présence portugaise dans le monde est une marque de notre identité portugaise. Et c'est pourquoi cette participation, cette dimension, et pour nous, quelque chose de tout à fait particulier. En effet, au cours des dernières décennies, et je parle ici de l'époque démocratique au Portugal, de grandes communautés portugaises et de descendants de Portugais se trouvent de par le monde, environ 5 millions de personnes. Le Portugal a vu le paradigme se modifier, c'est-à-dire que de pays qui était un pays d'émigration est devenu un pays qui accueille des migrants qui viennent de différents pays. Dans un premier temps, ces migrants étaient issus des pays de langue officielle portugaise, de nos anciennes colonies en Afrique ou du Brésil, qui est le plus grand pays de langue officielle portugaise. Mais au cours des dernières décennies, ces migrants sont venus de tous horizons, notamment l'Ukraine. La communauté ukrainienne est la troisième communauté étrangère par ordre d'importance au Portugal. Et c'est un exemple très parlant pour ce qui est du succès de l'intégration des citoyens qui viennent de zones géographiques avec laquelle n'existait ni relation historique, ni linguistique, ni économique qui soit particulièrement forte avec notre pays. C'est pourquoi nous envisageons la participation ou l'exercice de la citoyenneté à quelque chose qui doit être élargi dans notre contexte de monde global, puisque c'est une contribution décisive à la paix et à la coexistence pacifique entre les peuples et par là pour l'approfondissement de dynamiques économiques positives. C'est pourquoi, et monsieur le député Carlos González en a parlé, lui et trois collègues représente les Portugais qui vivent un peu partout dans le monde. Monsieur Gonçalves l'a dit, nous avons encouragé très vivement la participation des Portugais de l'étranger à la vie politique nationale. Ils peuvent même être élus pour les élections locales, mais nous avons également encouragé une bonne intégration des communautés portugaises dans leur pays d'accueil. Et c'est pourquoi nous pouvons nous enorgueillir de voir, lorsque l'on arrive au Luxembourg, que le ministre de la Justice parle le portugais aussi bien que moi, puisqu'il est d'origine portugaise. Nous avons également stimulé la participation au niveau local et régional de l'USO descendant dans la vie politique française, par exemple. Moi-même, en tant que représentant du gouvernement, au cours des deux dernières années, j'ai participé à une rencontre que nous organisons avec des législateurs des États-Unis d'origine portugaise. Ceci au niveau fédéral, certes, mais aussi au niveau des différents États dans lesquels on trouve un réseau très important de congressistes dont l'origine est portugaise. Voilà comment nous encourageons soit le lien avec le Portugal, soit l'intégration et la bonne intégration des luso-descendants dans leur pays d'accueil, que ces luso-descendants perçoivent comme étant leur propre pays. Et c'est ainsi que l'on maintient des liens très vivants avec les pays d'origine, notre pays, le pays d'origine que nous sommes, et avec les pays d'accueil. Nous voulons également faire office de référence dans le contexte global. Notre Premier ministre s'enorgueillit de son origine indienne. Nous nous enorgueillissons d'encourager le bon accueil cordial des migrants qui choisissent de vivre au Portugal. Nous nous organisons également disposer d'une politique très active d'octroi de la nationalité portugaise, tout en maintenant la nationalité d'origine chaque fois que cela est possible, et une politique également qui encourage la participation civique des communautés migrantes. Et permettez-moi de le répéter ici, répéter ce que j'ai déjà dit hors de cette enceinte et hors de nos frontières même. Débat démocratique vit d'une dialectique conflictuelle qui est le propre de la vie démocratique entre le gouvernement et les partis qui le soutiennent et les partis qui sont dans l'opposition. Mais je suis très fière de pouvoir le dire ici, et je l'ai déjà dit à l'étranger, que pour ce qui est de ces thèmes-là, à savoir l'accueil réservé aux migrants, l'accueil réservé aux réfugiés, l'intégration de ceux-ci dans la vie civique portugaise, l'intégration d'étrangers, il n'y a au Parlement portugais aucune force politique qui se targue de tenir un discours xénophobe, comme c'est le cas, hélas, dans bien d'autres pays. Il y a bien d'autres thèmes sur lesquels nous ne serons pas d'accord. Il y a des doutes ponctuels sur une mesure politique ou sur une autre. Mais pour ce qui est essentiel, cette question, jusqu'aujourd'hui, n'a pas fait l'objet de dissensions. Et j'espère que la situation demeurera de la sorte à l'avenir. Et d'ailleurs, le sait le président de cette séance, qui a été élu par un parti de l'opposition. C'est pourquoi, au vu du défi démographique, le Portugal a bien compris qu'il a besoin de davantage de migrants. Récemment, une étude indépendante a fait remarquer que pour maintenir les niveaux démographiques actuels, le Portugal a besoin d'un solde positif de 50 000 migrants au cours des prochaines décennies. C'est-à-dire que pour le niveau de la population active au Portugal se maintienne, nous avons besoin d'un solde migratoire positif de 75 000 migrants. Ceci signifie que le Portugal reconnaît que les migrations ne sont pas un problème. Au contraire, c'est une occasion qu'il faut saisir, qu'il faut choyer et qui doit se décliner en politique d'accueil. C'est pourquoi, pour ce qui est de l'accueil des réfugiés, le Portugal a manifesté son ouverture, sa disponibilité et nous avons participé activement et d'ailleurs un rapport de la Commission européenne l'a souligné hier encore, nous avons participé à l'accueil de réfugiés relocalisés à partir de la Grèce ou de l'Italie dans le contexte du programme de relocalisation ou alors également pour ce qui est de la réinstallation de réfugiés en provenance de pays tiers, que ce soit dans le cadre de l'accord avec la Turquie ou dans le cadre de notre coopération avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Et c'est parce que c'est ainsi que nous regardons ce thème. C'est là le regard que nous portons sur cette question. Et de ce fait, une évaluation internationale disait cette semaine que le Portugal était le meilleur pays pour la relocalisation d'expatriés, le meilleur en Europe et le cinquième au niveau mondial. Des évaluations fréquentes sont menées par l'OCDE, par exemple, et déclarent que le Portugal est le pays vient au deuxième rang des pays qui accueillent le mieux les migrants. Et ceci est le produit d'une stratégie qui remonte à 10 ans, depuis 2007, avec l'altération, la modification de la loi sur l'acquisition de la nationalité portugaise par des citoyens venus d'autres pays, originaires d'autres pays, et qui s'installent au Portugal décide de s'y installer et d'y faire le vie. Depuis 2007, donc depuis 10 ans, depuis qu'est intervenu cet amendement important à la loi de la nationalité, et nous avons passé de 4000 étrangers qui acquéraient la nationalité chaque année à 40 000. Donc nous avons augmenté ce nombre par 10, le nombre des citoyens étrangers qui chaque année deviennent portugais. Ceci signifie également qu'ils acquièrent, ce faisant, des pleins droits de participation civique et politique. En ce qui concerne la participation politique des citoyens étrangers, le Portugal a connu un essor du nombre de citoyens étrangers installés dans le pays jusqu'en 2010. Avec la crise et la récession à laquelle que le Portugal a enduré, notamment après l'application de mesures extrêmement exigeantes, nous sommes revenus à des soldes migratoires négatifs qui sont traduits également par la réduction de nombre de citoyens étrangers vivant au Portugal. Mais la situation s'est stabilisée en 2016. La situation n'est pas encore, le solde n'est pas encore économique, n'est pas encore positif, mais elle le deviendra sans doute avec la reprise au Portugal. Au Portugal, nous avons des règles de réciprocité qui permettent une participation avec 11 pays. 11 pays qui ont des accords de réciprocité qui permettent aux Portugais qui résident dans ces pays de participer aux élections locales, tout comme le font les ressortissants de ces pays ici en territoire portugais. Et c'est ceux qui participent à ces processus peuvent élire et être élus. Mais nous pensons que nous devons aller plus loin que cette participation civique et politique de ces citoyens. Les communautés capverdiennes et brésiliennes sont celles qui participent le plus, sont celles qui s'impliquent davantage et qui sont les plus présentes dans le recensement, un recensement qui n'est pas automatique, il est facultatif, contrairement à ce qui se passe avec les citoyens nationaux. Nous pensons donc que l'objectif de notre politique est d'augmenter le recensement des étrangers au Portugal afin qu'ils puissent participer aux élections locales. Les étrangers représentent aujourd'hui 4% de la population portugaise, de la population qui réside au Portugal, mais ils ne sont que 0,3% des électeurs pour les élections locales. Nous avons des élections locales qui vont se tenir dans 3 semaines et malheureusement le nombre d'électeurs étrangers inscrits n'est que de 27 000. Nous aimerions qu'à l'avenir ce chiffre augmente et augmente grandement. Mais il y a des cas très positifs, des exemples très positifs où l'on voit des citoyens étrangers siéger dans des assemblées d'arrondissement ou qui se présentent en tant que candidats. Donc cela est l'indice d'une participation croissante qui ne relève pas de la croissance économique, c'est-à-dire la contribution qu'ils apportent avec leur travail ou une participation culturelle très vive dans les associations qui existent dans tout le pays, les liens avec les structures du Haut Commissariat pour les migrations. En plus de tout cela, nous aimerions que cette participation civique de citoyens étrangers aille en s'accroissant. Et nous aimerions que le nombre significatif de recensements, c'est-à-dire 30% pour la communauté capverdienne, qui est celle qui participe le plus fortement dans les élections en s'inscrivant pour les élections locales. Nous aimerions là encore que ce niveau de participation soit émulé par d'autres communautés ou que l'on puisse élargir les règles de réciprocité avec d'autres pays qui ont des communautés de ressortissants importantes sur notre territoire. Voilà donc un défi qui fait partie de notre stratégie d'accueil, à savoir que la façon dont nous sommes au monde est celle qui définit en profondeur la façon dont au Portugal nous accueillons les immigrants, comme nous attribuons la nationalité portugaise. Parce que nous souhaitons que le Portugal soit leur chez-soi pendant de nombreuses années. Et c'est aussi pour ça que nous pensons que la politique migratoire voir à long terme, doit faire partie de la stratégie de développement de notre pays et faire l'objet d'un vaste consensus au niveau national. C'est pourquoi nous sommes très heureux de vous accueillir ici et c'est également pourquoi au plan intergouvernemental, au plan des institutions européennes, nous serons fortement engagés. Je suis député, mais mon mandat est suspendu du fait des fonctions que j'exerce en ce moment. Je suis certain que le Portugal, au plan parlementaire, participera activement à une politique qui lutte contre la xénophobie, la discrimination des étrangers pour le bien d'une Europe solidaire et inclusive. Merci.
Muito obrigado, Sr. Ministro Eduardo Cabrita.
Merci beaucoup, Monsieur le Ministre Cabrita. Eh bien, c'est la réalité. Nous avons cette perception commune au Portugal. Nous accueillons les émigrants. Nous travaillons dans ce sens-là dans tous les pays du monde. Tous les gouvernements ont fait de leur mieux pour essayer d'intégrer les citoyens dans les pays de réception et nous les saluons, nous les accueillons. Ça a été une tradition longue de l'histoire des migrations, de l'immigration et des flux de personnes. Alors il y a 8 personnes qui demandent la parole pour participer à la discussion. Nous n'avons que 20 ou 25 minutes pour le débat en question, donc je vous demanderai de vous en tenir à 2 ou 3 minutes au maximum. Je ne veux pas vous empêcher de parler, mais il y a des délais qu'il nous faudra respecter. Et donc, sans plus tarder, je donne la parole. Excusez-moi de d'écorcher éventuellement les noms, mais c'est quelqu'un qui représente le Parlement arménien, à Monsieur Amenku. J'espère que je n'ai pas trop écorché votre nom. Vous avez la parole pour 2 ou 3 minutes. Merci beaucoup, mes chers collègues, mesdames et messieurs. Merci de cet accueil. Merci de ces contributions tout à fait pertinentes des derniers orateurs. Et j'aimerais revenir sur quelques mots, parce que demain, finalement, je vais faire moi-même un exposé. Mais la première observation que je souhaiterais faire est en fait vous parler de cette approche qui est un axiome de base. Il n'y a pas d'approche autre que universelle. Il n'y a pas autre chose que l'universel. On ne peut pas tourner l'immigration en quelques communautés de la diaspora ou faire un exercice bizarre qui ne consisterait pas en la pratique des droits de l'homme. Ils sont universels. Il faut être extrêmement prudent pour éviter toute forme de discrimination positive aussi. Ces droits sont universels. La démocratie implique la participation, mais parle aussi de valeurs. Deuxième observation, quand le pays d'origine se bat pour faire respecter les principes démocratiques des compatriotes dans d'autres pays, eh bien, il serait préférable que le pays d'origine pratique lui-même la démocratie. Impossible de dire lutter pour la démocratie à l'extérieur de votre propre pays pour vos compatriotes si vous-même, à l'intérieur du dit pays, ne pratiquez pas la démocratie, n'êtes pas démocrate. Donc, quand on parle de la liberté d'expression, des médias, du droit à la justice, à l'équité à l'extérieur de nos pays, il est très important, d'abord et avant tout, que ces droits fondamentaux soient préservés au sein du pays. Et d'ailleurs, je me rappelle quelque chose de très intéressant dit par le président Erdogan en mars dernier. Il l'a dit aux Allemands avant le référendum constitutionnel. Il demandait à la diaspora turque de demander la paix. Ben, c'est bien, mais d'un autre côté, vous imaginez que ce type d'annonce ne fait qu'alimenter la xénophobie et que c'est une forme d'arme démographique. Donc soyons prudents. Les communautés de la diaspora ne devraient pas, dans les pays hôtes, être perçues comme étant une arme démographique. Enfin, à propos des élections à venir en Allemagne, Je ne sais pas s'il y a des représentants d'Allemagne ici, mais si un représentant d'un autre pays en appelle à ses compatriotes pour ne pas voter dans un autre pays pour les chrétiens démocrates ou les démocrates sociaux, eh bien, pardonnez-moi de constater qu'il ne s'agit pas de démocratie, c'est de l'ingérence dans les affaires internes d'un pays. Et donc, prudence, ne pas casser les règles du principe de l'universalité, l'universalisme de la démocratie. Merci beaucoup de tout ce que vous avez dit, ça me permet de réfléchir et de m'exprimer.
Muito obrigado. Eu dava agora a palavra ao representante do Parlamento.
Merci beaucoup et maintenant je donne la parole au représentant du Parlement roumain. Il s'agit de Constantin Codriano. Je présente rarement des excuses, mais finalement, là, je vous le fais. Il faut juste se contenter de 2 ou 3 minutes, très peu de temps. Nous aurons une autre possibilité de reprendre le débat plus tard. Mais sur le point de la participation politique des diasporas, il faut revenir. Parce que si jamais vous ne votez pas, eh bien, vous n'êtes pas pris en compte. Et on veut qu'il y ait autant de participation dans ces réseaux parlementaires que possible. Nous souhaiterions que vous nous disiez comment la diaspora peut participer dans le pays d'origine. Merci, Président. Permettez-moi d'abord de présenter mes félicitations à ceux qui ont eu l'idée de ce réseau pour les politiques de diaspora. Nous comprenons que quand on travaille sur les politiques de la diaspora, ça a une incidence sur le pays d'origine, mais bien évidemment aussi sur le pays d'accueil des membres de cette diaspora. Et donc, c'est une initiative qui est remarquable. Et aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai parlé à mon collègue d'Irlande, d'ailleurs. On fera une visite à Dublin aussi vite que possible. Mais pour ce qui est de la participation démocratique de la diaspora, les implications politiques, l'implication des citoyens roumains dans les différents pays d'accueil est importante. En 2008... il y a plusieurs endroits pour les membres de la diaspora, et plus particulièrement les Roumains de l'extérieur, qui sont importants. Pour ce qui est de la participation démocratique, j'en suis un exemple incarné, parce que je travaille en République de Moldova, je représente les Roumains de l'étranger, nous avons différents publics pour ça, et depuis 2016... il y a eu un gouvernement séparé au sein du gouvernement de la Roumanie qui est responsable des Roumains de l'extérieur, de l'étranger. Il faut comprendre que quand on parle diaspora, on parle de choses, comme cela a été dit par certains intervenants, le continent en entier est concerné, et pas seulement. Il y a 10 millions de Roumains qui sont dans la diaspora, et finalement, c'est beaucoup pour une démographie comme la nôtre. Il y a les communautés historiques, mais il y a aussi ceux qui font marcher la diaspora économique, et la relation entre eux-mêmes et l'État d'origine a une incidence, y compris sur le pays hôte. Donc aujourd'hui, je pense que la Réunion va se transformer entre une tribune de parole à une tribune pour action, pour préserver les intérêts de ceux que l'on sert, nos citoyens. Donc je réitère mes remerciements aux collègues portugais de nous accueillir dans cet immeuble formidable, proche d'une date extrêmement importante pour les relations roumano-portugaises, c'est-à-dire le 100e anniversaire depuis la formalisation de ces relations entre les États, et parce que la diaspora roumaine du Portugal est importante. Certains membres se retrouvant faisant la une de la presse, j'ai pu le constater en arrivant au Portugal, je crois que nous ne pouvons que remercier le Portugal d'être un pays hôte aussi accueillant. Merci, merci beaucoup de vos paroles pour le peuple portugais. Je donne maintenant la parole au représentant du Parlement de Malte, Madame ou Monsieur Kutadja. Pardonnez-moi. Mon collègue, Dr Richri, qui travaille au ministère des Affaires étrangères à Malte et qui est aussi président des Européens à travers le, des Maltais à travers le monde, va prendre la parole. Merci, mesdames et messieurs les députés. Permettez-moi d'abord de faire une observation sur l'importance historique de cette réunion de Lisbonne. C'est une étape tout à fait remarquable. L'Europe, nonobstant les autres parties du monde, a toujours été un peu à la traîne sur ces sujets. Grâce à cette réunion, nous pouvons dire que nous entamons un chemin très important qui nous attend pour nous pencher sur ces questions très importantes. Il y a une dizaine de pays membres du Conseil de l'Europe qui ont plus de ressortissants à l'étranger que dans leur propre pays. Et Malte en fait partie. Nous ne sommes que 400 000 citoyens, mais nous avons 1,5 million de Maltais qui vivent à l'étranger. Donc, certains de ces pays ont des difficultés pour accorder l'exercice des droits démocratiques à ces gens, tout simplement parce que ces personnes ne payent pas de taxes à Malte et que, en phase électorale, ces gens-là vont s'intéresser surtout à ce qui va se passer au sein des gouvernements de Malte alors qu'ils vivent à des milliers de kilomètres. Donc on a un problème, même entre nous en Europe, nous le connaissons. Donc nous faisons la proposition suivante. Tout de suite après la réunion, il faut considérer au niveau européen l'opportunité d'une convention pour les citoyens ressortissants à l'étranger pour traiter ces questions. Et le Portugal se distingue, est un exemple absolument brillant de cela sur la scène internationale et pas seulement européenne. Donc nous ne pouvons que rendre hommage au Portugal pour ses efforts et notamment sur la question syrienne. Deuxième proposition, faire l'année des communautés de diaspora en Europe, de sorte à voir émerger cette conscience nécessaire parmi les Européens du fait que l'immigration, les flux migratoires, ce n'est rien de toxique. Il faut absolument enlever cet élément de toxicité du traitement de la question. Enfin, au niveau de la Commission européenne, il faudrait qu'à l'avenir, il y ait un commissaire pour les affaires de la diaspora. Pour l'instant, les questions de la diaspora sont distribuées entre trois commissaires. Au niveau européen, il conviendrait d'avoir un seul commissaire au niveau européen. Merci. Merci. Je donne la parole à un membre du Parlement bulgare. Madame Znova, enfin la Bulgarie. Et merci d'être succinct. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs. La politique de la diaspora recouvre différents aspects qui rendent la réflexion difficile pour l'intégrer dans une seule ligne directrice. En fait, on a plus de 64 millions de personnes qui appartiennent aux diasporas à travers l'Europe et qui, aujourd'hui, sont en cours des dangers. Je ne pense pas que les traiter d'une seule manière serait la meilleure façon de traiter. D'abord, il y a des problèmes de politique qui concernent les diasporas spécifiques. Deuxièmement, il y a la nécessité de traiter certains groupes spécifiques de manière spécifique. Dans un certain nombre de documents du Conseil de l'Europe, on voit que la diaspora de nouveaux venus qui viennent d'arriver dans les États européens et qui sont là depuis deux, maximum trois générations, posent des problèmes particuliers. Il y a parfois des problèmes de relations entre l'état d'origine et l'état d'accueil, ce qui rend les possibilités d'intégration difficiles. Ce qui pose des problèmes au niveau des minorités nationales, telles que par exemple les minorités hongroises. Et on a vu ce qui se passe depuis 2001 au niveau des communautés hongroises et des problèmes qui restent en suspens sans solution. il serait important de se rappeler la situation entre la Hongrie d'un côté et la Slovaquie, la Bulgarie d'un autre. Ce n'est pas le seul exemple de problème. Il y a certaines situations dans lesquelles ces questions-là revêtent une importance capitale pour les pays hôtes. Il faut effectivement envisager des structures de pont ou de contact entre les différents pays, notamment pour accueillir de manière adéquate la diaspora des nouveaux arrivants, tout en évitant les écueils afférents à leur arrivée récente en Europe. S'il y a des gens qui viennent, par exemple, d'un pays européen pour aller dans un autre européen, et compte tenu souvent de problèmes linguistiques, on sait qu'en grosso modo, ils vont partager les mêmes valeurs en matière des droits de l'homme. Et il y a déjà une possibilité d'intégration adéquate dans le nouveau lieu de résidence parce que ce sont des valeurs européennes. En revanche, quand ils arrivent d'un continent différent et ne sont pas en mesure de s'intégrer, alors se profilent des dangers quand il y a effectivement des gens qui arrivent avec un corpus de valeurs différent des valeurs européennes. Donc, un problème d'isolement de ces sociétés qui se forment par rapport à la société d'accueil dans lesquelles ils n'arrivent pas à s'intégrer.
Muito obrigado.
Merci beaucoup. Je voudrais donner la parole maintenant à Monsieur Oussa, le sénateur argélien. Il y a quelques années, j'étais en Algérie, Algérie, pour traiter des questions justement de migration.
Je souhaiterais d'abord revenir sur ce point-là, sur cet atelier, autour d'un point qui me semble absolument fondamental. Il s'agit des différentes initiatives, de ces différentes opérations démocratiques et les rapports avec le pays d'origine. J'ai l'impression que ce qui est visé ici, c'est de réfléchir à un transfert, entre guillemets, de démocratie, comme on ferait un transfert de technologie, entre les différents pays d'origine et d'accueil. Je pense que dans ce contexte-là, les questions ne doivent pas se poser de cette manière-là, et on ne doit pas voir les choses en fonction du pays d'accueil au pays d'origine. La plupart des cas, les migrants de ces pays-là ne souhaitent pas du tout pouvoir se prévaloir de leurs droits démocratiques, mais simplement de vivre dans la paix. Je crois, pour participer aux opérations démocratiques dans le pays d'origine, il faut revenir sur une véritable réflexion en prenant en compte toutes les considérations afférentes à l'état du pays de départ et la prise de conscience de l'importance de la participation au Parlement. Et il y a des questions très difficiles qui se posent par rapport notamment compte tenu des lois applicables dans les pays d'accueil et des côtés logistiques qui sont compliqués aussi, notamment pour la participation aux processus électoraux dans les pays d'origine ou d'accueil. Ensuite, les lois du pays d'accueil, la nécessité de construire une relation non interrompue avec les pays de départ. Nous avons vu que cela est assez difficile et qu'il y a des problèmes de contact de manière constante avec la diaspora. Il faut aussi essayer de faciliter dans les pays d'accueil la participation aux différentes opérations électorales, qu'il s'agisse d'élections présidentielles, législatives ou de référendums importants. Donc, en l'absence de quelques paramètres de ceux que je viens d'évoquer, il est très difficile d'imaginer une bonne intégration, une bonne participation démocratique dans le pays d'accueil. Et de ce fait, la le non-succès des gens qui sont des candidats à l'intégration. Donc il faut que ces différents éléments de la communauté, même des gens qui viendraient de tiers pays, il faut donc que ces membres de ces différentes communautés aient ce sentiment d'appartenance, mais un sentiment d'appartenance qui soit justement équilibré entre le pays d'origine et le pays d'accueil.
Merci beaucoup. Je voudrais donner maintenant la parole au représentant de la Jordanie, M. Nassan Al-Khani. La Jordanie n'est pas là. Je donne donc la parole à M. Ludwig Bozo de Croatie.
Merci,
M. le Président, Mesdames et Messieurs, mes très chers collègues. Je suis très heureux de pouvoir partager avec vous l'expérience croate et des problèmes afférents à mon pays. Premièrement, les infrastructures dans mon pays qui traitent des questions de la diaspora sont spécifiques. Il y a chez nous une grande tradition d'accueil de l'immigration. Les premières vagues de l'immigration ont déjà commencé au XVe siècle, compte tenu de l'Empire ottoman. Et le résultat de cette immigration, c'est les minorités existant en Croatie dans le pays. Deuxièmement, il y a de grands flux au cours du XIXe siècle et plus particulièrement au démarrage du XXe siècle. Notamment les grands flux de migration vers l'Amérique et l'Australie. Aujourd'hui, de nouvelles tendances, notamment depuis l'intégration à l'Union européenne, pour des raisons économiques, les jeunes croates sembleraient vouloir se diriger vers des pays plus développés en quête de meilleures opportunités. Nous pensons aujourd'hui que cela représente 3 millions de personnes de la diaspora croate, y compris pour des destinations lointaines. En fait, les citoyens de Croatie représentent une des diasporas les plus étendues dans le monde. Les institutions les plus anciennes traitant de la diaspora croate, c'est la Fondation du patrimoine croate qui a démarré son activité plus de 65 ans avant et bien avant que la Croatie ne soit reconnue en qualité d'État indépendant. Cette fondation organise des événements et il y en a une soixantaine par année. En adoptant cette stratégie pour la gestion des diasporas de l'étranger et la nouvelle politique de 2011, nous avons établi un bureau national ou domestique au niveau parlementaire avec un comité concernant les Croates de l'étranger pour pouvoir discuter de leur conditions spécifiques de vie au sein du Parlement. Il y a 3 sièges qui sont réservés pour les Croates qui ne vivent pas en Croatie au sein de nos parlements. Je conclus en disant que conserver de bonnes relations entre les représentants de la diaspora et le pays d'origine est important pour les deux pays, hôte et d'origine. Merci.
Merci beaucoup. Et pour terminer cet ensemble de questions, M. Kakasric d'Autriche.
Thank you, Mr. Speaker. There has been much discussion.
Merci beaucoup. On a beaucoup parlé aujourd'hui des possibilités d'intégration, du respect envers les migrants. Ce sont des questions très importantes et nous le reconnaissons. J'aimerais toutefois souligner un autre aspect de la migration, celle des gens dans le pays d'accueil, qui est très importante si l'on veut que la migration fonctionne. En Autriche, nous avons des 8 millions d'individus qui ont une origine dans la migration. Et les gens sont les bienvenus en Autriche. Ce sont ceux qui acceptent les règles et les lois de notre société, c'est-à-dire ceux qui apprennent l'allemand, qui respectent les femmes qui ne placent pas les règles de leur religion au-dessus des règles de notre État. Malheureusement, il y a une minorité des migrants, 10 ou 20%, qui ne veulent pas accepter cette situation. Et c'est eux qui sont critiquables pour l'attitude envers tous les autres migrants. Nous, en tant que pays d'accueil, faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour les intégrer. Mais nous devons également faire comprendre que les migrants doivent accepter la façon de vivre des pays d'accueil. Car faute de quoi, la mauvaise opinion que l'on a des migrants ne fera que s'accroître. Il est compréhensible que quelqu'un veuille émigrer dans un pays dont il n'a pas l'intention de respecter les lois ou dont il ne comprend pas la culture. Nous ne devons pas avoir également la politique des pays d'origine dans nos pays. Si les migrants le veulent, eh bien, ils peuvent quitter notre pays. La migration, la diaspora et l'intégration se font dans les deux sens. C'est prendre et c'est donner aussi. Et ça ne va pas dans un seul sens. Merci.
Muito obrigado. Chegamos ao fim da sessão.
Merci beaucoup. Nous avons terminé le débat. Je prie les participants de m'en excuser, mais le temps qui nous est imparti est écoulé. Je voudrais demander à nos orateurs de reprendre la parole. Mais Madame Yushchenko pourra reprendre la parole au cours du prochain débat. Donc je donne la parole en premier lieu pour une brève intervention, peut-être pour répondre à quelques questions, à Monsieur Kutukancha. Merci beaucoup. Je voudrais souligner un point. C'est le contexte des rapports entre la Turquie et certains pays européens, car mon collègue allemand y a fait référence. Un débat politique a eu lieu entre Mme Merkel et M. Schulz il y a quelque temps à la télévision, il y a quelques jours, et beaucoup du débat portait sur la Turquie, quoique en fait il s'agissait de la campagne électorale pour les prochaines élections en Allemagne en septembre. Les rapports entre l'Allemagne et la Turquie sont des relations très profondes et qui viennent de loin. Mais lorsqu'il y a des élections, parfois, le populisme fait entendre sa voix. Et nous devrons envisager les déclarations de ces jours dans ce contexte-là. Mais j'aimerais vous rappeler la position officielle de la Turquie et du président Erdogan lorsqu'il s'agit des citoyens turcs qui vivent dans la société allemande aujourd'hui. Et il dit « Intégrez-vous dans la société ». Et il l'a répété. Il l'a répété à l'envi lors de réunions avec de grands groupes d'immigrants qui vivent en Allemagne et qui sont naturalisés allemands. Ils deviennent des citoyens allemands, ils s'intègrent et ils font partie du pays. Et il a dit une chose avec laquelle on sera d'accord en disant ne vous assimilez pas car vous perdrez votre identité et votre sens de l'appartenance. Voilà quelle est la politique de la Turquie et du président Erdogan qui l'a répété à plusieurs reprises. Et comme je vous l'ai dit, l'Allemagne et la Turquie sont des partenaires. Nous avons des relations économiques qui sont très vigoureuses et j'espère qu'après les élections, nous en reviendrons à des propos plus rationnels. Car, comme je vous l'ai dit, pendant les élections, au lieu de la rationalité, on donne parfois la parole aux émotions. Merci beaucoup. Monsieur le ministre adjoint Eduardo Cabrita, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais tout simplement saluer l'esprit de communauté de tous les parlementaires qui travaillent à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe pour que on accroisse la participation sociale et civique des émigrants et des diasporas dans les pays du Conseil de l'Europe dont les piliers sont le respect des valeurs démocratiques et des droits de l'homme. C'est là l'axiome de cette participation. Et le Portugal, à cet égard, est tout à fait disponible en mettant à disposition son expérience en manière de promotion de la participation des Portugais dans les pays étrangers dans lesquels ils vivent, les Portugais et leurs descendants. Et également en fonction de notre politique qui a pour but de faire avancer une stratégie de promotion et d'intégration des immigrants pour faire avancer le dialogue européen à l'échelle globale. Car l'Europe a besoin de davantage de migrants, mais des migrants qui participent, des migrants qui soient inclus, qui soient actifs dans les sociétés dans lesquelles ils s'installent. Les pays qui considèrent qu'il faut dresser de nouveaux murs en Europe sont en train de nier les idéaux européens. C'est pourquoi nous voulons manifester une solidarité, une ferme solidarité avec les pays qui se sont distingués par la façon dont ils ont su accueillir les réfugiés au cours des récentes crises migratoires. L'Allemagne, la Grèce, l'Italie qui ont joué, ou la Suède, qui ont accueilli des réfugiés en très grand nombre, soit en tant que pays de première destination ou comme pays d'accueil. Le Portugal est très fermement engagé au profit de cette stratégie, la stratégie d'une Europe solidaire et européenne et démocratique. Nous pensons que cette stratégie renforce également la cohésion sociale du Portugal et renforce la démocratie. C'est pourquoi nous pensons que c'est un but politique que de poursuivre cette stratégie d'accueil et d'adopter des mécanismes qui permettent non seulement une intégration assortie de droits pour les travailleurs, pour les investisseurs qui viennent de l'étranger et qui veulent s'implanter dans l'économie portugaise, mais aussi une participation civique accrue qui doit se traduire par l'élargissement de l'éventail des pays avec lesquels nous avons des accords de réciprocité permettant la participation dans les élections locales, que nous puissions également recenser davantage de migrants afin que eux ici puissent participer aux élections locales et pour se prévaloir bien entendu de droits essentiels. Nous pensons donc à l'avenir davantage de personnes dont l'origine n'est pas portugaise pourront devenir membres de collectivités territoriales et assumer des responsabilités à ce niveau local dans les municipalités. Et c'est pourquoi, et c'est dans cet esprit, je considère que ce réseau parlementaire pour les politiques de diaspora mérite tout notre appui. Et la PCE peut compter sur l'engagement solide du Portugal lorsqu'il s'agit de créer des plateformes pour un dialogue plus nourri. Merci.
Obrigado, Sr. Ministro. Chegamos ao fim deste nosso painel, mas eu gostava de dizer que esta dupla...
Nous en arrivons à la fin de cette session. Alors, ce double sentiment d'appartenance, être raccordé à un pays, vivre dans un autre, eh bien, ça a été évoqué par un certain nombre de pays. Ça enrichit les pays, ça crée des liens et ça crée des rapports entre les deux nations. Et tout ceci veut dire qu'il est important que l'on ait la participation civique. C'est aussi, me semble-t-il, un défi pour le Conseil. Ce réseau parlementaire va se concentrer sur ces questions-là et fait en la matière les premiers pas. Au Portugal, on dit, de toutes les manières, pour aller loin, il faut commencer par le premier pas. Nous allons faire les premiers pas, il y aura des obstacles, il y aura des obstacles d'ailleurs à caractère plus idéologique qu'autre chose. Toutefois, si nous pensons au peuple, si nous pensons à nos peuples, à nos populations, je suis certaine que le résultat de ces efforts seront positifs. C'était un honneur d'être l'animateur de cette session, des intervenants de très haut niveau. Nous sommes heureux de voir le Conseil de l'Europe prendre fin, fait et cause pour l'émergence d'une Europe qui soit un endroit meilleur. nous pourrons certainement avoir plus d'influence dans le monde.
Thank you. I hope everyone has had their coffee and is ready for.
J'espère que vous avez tous pris votre café. Nous allons poursuivre une discussion particulièrement intéressante. Nous allons démarrer l'atelier sur la diaspora, l'incidence sur les pays d'origine. J'aimerais démarrer avec Monsieur Andrea Rigoni, président de la sous-commission sur la coopération avec les pays d'origine non européens, de transit aussi, la commission des migrations, des réfugiés et personnes déplacées de l'APCE. Il va vous parler du réseau de parlements européens sur les politiques de la migration. Nous sommes ici, compte tenu de son engagement sans faille à ces questions, et nous lui sommes particulièrement reconnaissants.
Ok. Our first speaker will be speaking in Spanish, so please put on your earphones.
Mettez vos écouteurs. Notre intervenant va vous parler en italien.
Io parlerò nella mia lingua.
Merci. Je parlerai dans ma langue, l'italien. Merci, Madame la Présidente, de m'avoir donné la parole. Mesdames et Messieurs, mes chers amis, mes chers collègues, aujourd'hui est une journée importante pour moi et pour notre commission. C'est une journée qui résume le travail que mène l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe depuis plus de 20 ans sur les diasporas. L'Assemblée parlementaire et notre commission en particulier traite des diasporas en Europe depuis 1999. En 1999, une première recommandation sur ce thème a été adoptée. Elle portait sur les liens entre les Européens qui vivent à l'étranger et leur pays d'origine. En 2004, un autre rapport a été préparé par notre Assemblée sur ce thème et en 2009, on a adopté une résolution, une recommandation sur la participation des diasporas européennes, le besoin de réponse au niveau gouvernemental et intergouvernemental. Ce rapport a été préparé par la parlementaire ukrainienne, Madame Bilozir. Et ce n'est pas par hasard que la présidente du débat de cet après-midi est une ukrainienne également, et comme l'était Madame Bilozir. Dans cette recommandation, le comité des ministres du Conseil de l'Europe a été invité à évaluer la possibilité d'instituer sous les auspices du Conseil de l'Europe une assemblée des Européens à l'étranger, soit un organisme qui représenterait les diasporas européennes au niveau pan-européen et qui pourrait organiser de façon régulière un forum des Européens à l'étranger. Donc, l'histoire vient de loin. Dans ces documents, l'Assemblée a souligné le besoin d'une meilleure et d'une plus grande participation politique des migrants afin de renforcer leur capacité pour promouvoir et transférer les valeurs démocratiques. L'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a invité les États membres à élaborer des politiques sur la migration et qui encouragent un rôle institutionnel pour les diasporas. De plus, la PCE a commencé d'examiner des instruments qui soient plus détaillés pour permettre une participation accrue des diasporas à un débat politique renouvelé sur le développement de mesures nationales qui encouragent la participation des diasporas dans la vie politique, en plus de leur rôle dans les changements démocratiques dans les sociétés de notre Europe. Par conséquent, j'ai moi-même préparé un rapport, ce n'est pas par hasard que je me trouve ici, sur la participation démocratique pour les diasporas des migrants. Et en 2015, l'Assemblée a adopté la résolution très importante de ce point de vue, la résolution 2043 qui demande l'institution d'un réseau parlementaire pour les politiques relatives aux diasporas. Il y a de cela donc 2 ans. Et cette idée a été soutenue par mon collègue, Monsieur Pierre-Yves Le Borgne, qui, dans son rapport sur les réseaux éducatifs et culturels des communautés qui vivent à l'étranger, et à partir de la résolution de l'Assemblée 2124, y compris dans la sous-commission sur les rapports avec les pays d'origine et de transit non européens de la Commission d'immigration, que j'ai l'honneur de représenter et que je représente ici. Ma sous-commission s'est interrogée sur la possibilité d'instituer le réseau comme une tâche prioritaire et a organisé diverses conférences préparatoires sur ce sujet. Et ce n'est pas par hasard que la conférence de lancement de ce réseau se tient au Portugal. En effet, en 2015, le Parlement portugais a accueilli une conférence intitulée « Le dialogue Nord-Sud sur la migration ». Et au cours de cette conférence, on a lancé pour la première fois l'idée du réseau. Nous sommes donc très reconnaissants au Parlement portugais de l'appui indéfectible qu'il nous a offert et je remercie le Portugal qui a accueilli cette conférence de lancement. Je voudrais maintenant vous entretenir sur l'idée de ce réseau, quel est son objectif et quelles sont les activités que nous nous proposons. En tant qu'Italien, je sais très bien que les communautés de la diaspora représentent une passerelle culturelle, économique et politique entre les pays de résidence et les pays d'origine. Nous l'avons connu dans notre histoire et nous le vivons au jour le jour. Au cours des 20 dernières années, les diasporas sont devenus un des facteurs qui apportent l'expérience démocratique dans leur pays d'origine. En particulier, les organisations diasporiques ont été très, très actives pour créer et développer dans les sociétés, une société civile dans nombre de pays d'Europe centrale et orientale. Récemment, les communautés de la diaspora ont commencé à jouer un rôle plus actif dans les politiques de leur pays d'origine comme dans les pays de résidence. Et l'essor des migrants travailleurs, le désir des migrants retraités de retourner dans leur pays pour y vivre et le désir qu'ont nombre de migrants de jouer un rôle plus actif dans la vie politique des pays qui les accueillent tout comme dans leur pays d'origine sont autant d'éléments qui constituent de nouveaux enjeux dans bien des domaines de politique. Et c'est devenu une question prioritaire sur l'agenda international. En juin 2013, j'ai été invitée à participer au dialogue interministériel sur les diasporas lancé par l'Organisation internationale des migrations dont nous avons accueilli le directeur ce matin. Il s'agit de la première réunion au niveau mondial qui réunissait les ministres responsables des diasporas. Au cours de cette conférence, j'ai eu plusieurs échanges qui ont été une véritable source d'inspiration. Car nous, parlementaires, en fait, avons un rôle très important à jouer dans la définition des politiques qui concernent les diasporas dans nos pays. C'est pourquoi j'ai pensé que ce serait un enrichissement que de disposer d'une plateforme d'échange pour les idées et les expériences entre parlementaires sur ces questions, sur les questions afférentes à la diaspora, et ceci avec les associations diasporiques. Le réseau proposé par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe représente l'étape suivante dans une politique plus vaste qui permet de stabiliser le processus institutionnel sur le dialogue politique à propos des diasporas et qui se consacre à la création d'un mécanisme qui permet de résoudre ensemble avec les diasporas des questions concrètes qui concernent une société inclusive. Voilà l'enjeu qui est devant nous, mettre l'accent sur la possibilité de donner l'élan à ces nouvelles sociétés qui doivent être toujours plus inclusives. Le réseau se concentrera surtout sur le travail avec les parlementaires, avec les associations diasporiques, avec les institutions étatiques des pays d'origine et des pays qui accueillent les migrants. Ceci afin de construire des sociétés inclusives en introduisant et en mettant en œuvre des politiques nationales sur la diaspora. Il s'agit d'une occasion sans pareil et c'est un enjeu, également un défi. Et nous sommes convaincus que nous serons le relever. Ce défi, nous nous y engageons. Car il s'agit d'une occasion sans pareil, disais-je, pour rassembler des associations de la diaspora et des parlementaires venus des pays d'origine et des pays d'accueil. La diaspora a une influence croissante sur le développement économique, politique et culturel des pays d'origine. Et en même temps, la diaspora peut rendre plus aisé le processus de construction d'une société inclusive dans les pays d'accueil. Grâce à ce réseau, on pourra, de façon structurée et coordonnée, créer non seulement ce réseau parlementaire européen sur les politiques de la diaspora, mais également disposer, avoir une tâche précise qui est celle d'encourager des réformes politiques et législatives qui concernent le rôle des diasporés dans les deux sociétés, la société de départ et la société d'accueil. C'est là notre tâche, car le phénomène ne doit pas se fragmenter. Nous devons faire en sorte que, grâce à notre réseau, cet instrument œuvre en faveur de réformes politiques et législatives qui concernent le rôle de la diaspora dans les deux sociétés. La valeur ajoutée de ce réseau est donc la création d'un dialogue et de consultations plus nourries entre les membres du Parlement et les associations de la diaspora pour ce qui ceci au dans un profit mutuel, car si nous devons souligner les résultats positifs des migrations, pas seulement les problèmes, pas seulement les difficultés, et bien sûr il y a certaines craintes, mais ce qu'il faut mettre en évidence, ce sont les éléments positifs, les possibilités concrètes de voir les migrations contribuer au développement généralisé des pays européens et des pays d'origine. Et je suis convaincue qu'il s'agira là d'un instrument qui, d'une part, redonnera l'élan aux parlements nationaux pour qu'ils puissent délibérer sur les problèmes de la diaspora et des migrations, et d'autre part, cela donnera aux associations diasporiques la possibilité d'être plus responsables par rapport dans les pays dans lesquels ils vivent. Donc, les membres de ce réseau participeront à des forums annuels qui devraient avoir lieu déjà l'année prochaine. Au cours de ces forums, on examinera des questions liées à la possibilité actuelle d'intégration des diasporas dans les sociétés d'accueil et au maintien des liens avec les pays d'origine. Car là encore réside un élément fondamental, à savoir maintenir un lien fort qui permette non seulement de retourner dans le pays d'origine, mais qui soit à l'origine d'un processus de dialogue, de collaboration et d'échange économique entre pays d'origine et pays d'accueil. Entre la tenue des principaux forums annuels, on pourrait organiser des réunions du réseau dans différents pays à l'invitation des parlements nationaux. Et le débat pourrait porter sur des thèmes spécifiques, comme par exemple le renforcement de la participation démocratique des diasporas en Europe, l'introduction des politiques qui permettent une meilleure participation des membres de la diaspora dans la vie politique, la promotion des activités des associations de la diaspora. Avec les autres services du Conseil de l'Europe, nous planifions également l'organisation de deux conférences interparlementaires sur les plateformes de coopération en matière de politique d'intégration, le rôle des associations diasporiques et les synergies avec les pouvoirs publics. Et l'autre conférence portera sur le rôle de l'enseignement pour l'intégration des migrants et le maintien des liens culturels avec les pays d'origine par le biais de l'enseignement linguistique. Pour renforcer le dialogue entre les membres de ce réseau et les associations de la diaspora, on pourrait organiser, en collaboration avec le Parlement national, deux séminaires régionaux. Et nous pensons organiser le premier avant la fin de l'année. Et ces séminaires régionaux compteraient avec la participation des pays d'origine et des associations de la diaspora. Le réseau pourrait également créer un prix européen pour la diaspora qui serait remis à une éminente organisation fonction diasporique sort de chaque forum et qui sera le fonctionnement du réseau sera garanti par le secrétariat de la Commission des migrations du Conseil de l'Europe en coopération avec la Commission de la culture de cette Assemblée et d'autres organismes du Conseil de l'Europe comme le Centre d'Or Sud, le Service de la jeunesse, la DG Démocratie et les congrès des autorités locales et régionales. Les principaux partenaires pour la mise en route et le fonctionnement du réseau seront bien entendu les parlements et les gouvernements des États membres du Conseil de l'Europe, les parlements des pays non européens d'origine et de transit et les associations de diaspora des migrants. Nous souhaitons inviter à coopérer également les organisations internationales comme l'Organisation mondiale des migrations, le Parlement européen, l'Union européenne, la Direction générale de la démocratie et le Congrès des autorités locales et régionales qui travaillent, qui prônent des valeurs similaires. On prévoit également de faire participer certaines fondations pour appuyer certaines activités du projet. Leur contribution en termes de coopération et de développement économique serait un avantage à long terme. À l'issue de cette conférence, nous avons l'intention d'adopter une déclaration dans laquelle on annoncera le lancement du réseau et la création d'une liste de membres qui sera ouverte à de nouveaux participants. Et je voudrais également suggérer d'instituer ou de créer la journée européenne des diasporas le jour où nous publierons cette déclaration, une journée qui devrait être célébrée à l'avenir dans toute l'Europe. Je conclus, mes chers amis, en vous remerciant tous de votre réponse enthousiaste et de votre participation nombreuse et de qualité à cette conférence. Et je vous invite tous à vous associer au réseau européen pour les politiques sur la diaspora en devenant des membres actifs. Aujourd'hui, je tiens à le rappeler, la Maison Blanche, qui devrait être la maison qui abrite la démocratie européenne, a décidé annuler 800 000 autorisations de jeunes gens, des jeunes gens qui ne connaissent peut-être que le sol américain, qui sont nés en Amérique, ne connaissent que la culture et la langue américaine car ils y sont arrivés quand ils étaient petits. Et maintenant, ils ne peuvent pas le rester. Donc, aujourd'hui, en Europe, il y a une histoire qui est aider les gens à rentrer chez eux. Oui, c'est une belle expression. On fait de belles histoires, mais ensuite, il faut être concret, réaliste. Ce sont les nouvelles données, des données qui ont été publiées aujourd'hui. 400 000 migrants y sont enfermés dans des centres de détention en Libye. Voilà un défi considérable et c'est quelque chose qui montre véritablement dans quelles conditions ces migrants vivent. Et donc, je tiens à vous dire, à vous, à nous tous qui sommes européens, que ce qui unit les Européens, ce n'est pas seulement les ressemblances, nos noms de famille ou la couleur de notre peau. Ce qui fait que nous sommes Européens, c'est la fidélité à un ensemble de valeurs. Alors, un idéal qui est et doit être un droit pour tous. Il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de droit si l'on ne respecte pas les droits humains. Et donc, nous méritons tous, et j'en suis convaincue, nous méritons tous d'avoir la possibilité de faire de notre vie ce que nous désirons le plus. Nous avons tous le droit de progresser, de faire nos preuves. C'est l'histoire de mon pays, l'Italie, mais c'est également l'histoire de ce continent, l'Europe. Et c'est ce qui a permis à l'Europe de cheminer comme elle l'a fait. Et je pense que c'est la route sur laquelle nous devons nous maintenir et que nous devons parcourir encore et toujours. Aujourd'hui, il est très important de faire preuve de notre unité, d'afficher notre credo commun entre une Europe qui partage les mêmes valeurs. Nous ne devons pas ériger de murs. Nous devons, entre nos pays et d'un pays à l'autre, ce qu'il faut faire, c'est lancer des passerelles qui unissent encore davantage l'Europe entre elles et avec les autres continents. Et voilà qui permettra, c'est quelque chose à quoi pourra contribuer le réseau. C'est là le rôle du réseau, un pont entre les continents, les États, les cultures et les idées différentes. Merci.
Thank you, Mr. Rigoni, for the...
Merci, Monsieur Rigoni, de la passion que vous avez su mettre dans ce sujet qui nous réunit tous ici aujourd'hui. Alors, je voudrais parler à mes trois intervenants principaux. L'impact des diasporas sur le pays d'origine. Le docteur Schmidt-Bremet va prendre la parole. Il vient d'Allemagne. Il est à la fois juriste et philosophe. Il a travaillé au plus haut niveau du service étranger. Il est président, il est ambassadeur pour la présidence du Forum mondial des migrations et du développement 2017-2018 et est devenu aussi, de manière simultanée et concomitante, ambassadeur au Maroc. Mesdames et messieurs, permettez-moi d'abord de démarrer en remerciant nos hôtes portugais. Je le fais dans le texte et je salue le Portugal que j'ai pu, et je continue en anglais maintenant, que j'ai pu connaître dans les années 90. J'ai été postée ici au Portugal et c'est toujours quelque chose de merveilleux que d'être amenée à y revenir. Excellences, membres des différents parlements, mesdames et messieurs, chacun d'entre nous a un élément du puzzle de la migration sans que quelqu'un ait l'image au complet. C'est une citation connue de Kofi Annan sur un dialogue de haut niveau de l'Office international des migrations de 2006 sur le débat et les processus de la migration et du développement. C'est aussi le point de départ du Forum global des migrations et du développement, le GMFMD, démarré en 2007 pour essayer de réunir les pièces du puzzle. Et c'est ma joie de pouvoir, avec mon ami marocain, le secrétaire général et ministre de la migration et de la diaspora marocaine à l'étranger, de travailler au sein de cet organisme GFMD depuis 10 ans et en réalité de créer des liens entre l'Allemagne et le Maroc et l'Allemagne. Il m'a demandé d'ailleurs de vous parler et de saluer la noble assemblée ici présente. Un élément important du puzzle, c'est précisément la diaspora. Depuis son démarrage en 2007, le GFMD a promu l'important rôle de la migration dans le développement et son discours social, économique, politique pour le développement des pays d'origine, de même que les acteurs importants de la migration et des processus de développement. Toutefois, travailler avec ou parler de la diaspora doit nous amener à être conscients du fait que la diaspora n'existe pas en tant que telle, mais qu'il s'agit de groupes hétérogènes, divers, comme n'importe quel groupe de la société civile. Au Maroc, il y a beaucoup de familles migrantes comme ça, avec d'ailleurs certaines interventions de ce matin autour de cela. On a des gens qui vont par exemple d'Afrique à d'autres continents, ils sont des migrants, nous sommes des migrants aussi, de même que le chef de l'Organisation mondiale des migrations. En fait, il y a une différence avec ceux qui n'ont pas de documents, les femmes exploitées, les enfants objets de maltraitance. Il faut essayer de voir qui appartient à quel groupe de la diaspora. Et si jamais on réfléchit à la diaspora, on peut peut-être intégrer les ingénieurs de haut niveau sans prendre en considération ceux qui sont exploités, ceux qui sont pauvres, ceux qui viennent du Bangladesh, de l'Arménie, du Pakistan. En fait, il y a dans la diaspora de gros potentiels avantages pour les deux pays, destination origine. Il y a des recommandations qui ont été formulées au sommet de Berlin en juin, c'était d'inclure la migration dans les plans de développement, dans les stratégies, des plans d'action nationale de développement et renforcement du dialogue. avec la diaspora qui ferait partie des questions afférentes au développement. C'est la raison pour laquelle les Allemands responsables considèrent la diaspora comme un groupe cible, comme des partenaires pour promouvoir le développement dans les pays tiers. Donc c'est un potentiel énorme pour le développement de nos pays de départ. Ça a été évoqué, lesquels bénéficie à des familles dans le besoin. Il est question de renforcer la participation dans les institutions locales. Le GFMD a identifié un certain nombre de leçons apprises de la réunion de certaines pièces du puzzle pour essayer de promouvoir les engagements de la diaspora dans le pays d'origine. D'abord, il faut que vous connaissiez votre diaspora. C'est indispensable de la connaître en faisant une cartographie et en incluant les organisations de la diaspora, de même que les individus, dans le développement et la planification des pays d'origine. Parlez à votre diaspora. C'est important. Les pays d'origine doivent établir un dialogue avec leur diaspora de sorte à comprendre les besoins, les contraintes, les potentiels. C'est à la base du développement de politiques qui devrait promouvoir l'engagement au niveau de la diaspora. Ensuite, renforcer les capacités. Très important de former les preneurs, ceux qui participent à tout cela, pour, par exemple, faire des choses comme les jours de la société civile ou l'espace commun. Des exemples, par exemple, le Bureau des migrations et réfugiés en Allemagne a soutenu des organisations de migrants spécifiques en faisant des formations spécifiques. Soutien qui vise à établir les organisations migrantes qui travaillent partout en Allemagne comme étant un point de contact fiable pour les autorités locales. Le BAMF apporte du financement pour aider des organisations à constituer un secrétariat et rendre le travail plus professionnel. L'Allemagne reconnaît que la diaspora est un acteur important. Le ministère fédéral d'Allemagne pour la coopération économique et le développement, BMZ, soutient la participation active de la diaspora, de ses représentants, dans les forums internationaux concernant la migration et le développement. Le GIDS, c'est-à-dire l'Office de développement qui est l'organe qui exécute les décisions du ministère du développement, prépare les représentants de la diaspora à travers le développement de mesures d'acquisition de compétences à un dialogue de haut niveau sur la migration, le développement et l'intégration. C'est donc le GFMD qui va organiser les jours de la société civile. Par ailleurs, cet organisme a insisté sur le rôle de la diaspora dans les secteurs privés, avec une coopération allemande qui devrait promouvoir le potentiel économique de la diaspora en soutenant les entrepreneurs de la diaspora dans les pays d'origine. Les contributions les plus connues de la diaspora sont précisément les transferts d'argent évoqués ce matin. L'Allemagne est le cinquième pays le plus important. Plus de 22 milliards de dollars ont été envoyés d'Allemagne en 2015. Pour beaucoup de personnes qui les reçoivent, ces transferts sont une stratégie de survie, sont dépensés sur des besoins essentiels et de base. L'éducation, la santé jouent un rôle important dans l'économie de beaucoup de pays en développement. De ce fait, ça pose des risques particuliers. Et là, je reviens sur ce qui a été dit par mon collègue suisse avec qui j'ai eu des discussions à ce sujet il y a deux jours à Vienne. Environ 25% de ces personnes appartiennent à plus de 10% des pays d'origine pour ces transferts. L'Ukraine est en dessous de ce niveau, mais ça crée donc une forme de dépendance. Si les partenaires éthiopiens devaient savoir qu'ils ne recevront plus rien des pays du Golfe, cela provoquerait des problèmes économiques. Toutefois, pour ce qui est des investissements directs, ce type de transfert de fonds sont les plus stables en temps de crise et représentent les flux financiers les plus établis. Compte tenu de ces effets de ces différents transferts, il est très important d'atteindre les objectifs de 10% pour le financement du développement et d'éliminer à des coûts de moins de 3% et d'éliminer les corridors à des coûts de plus de 5%. Pour l'instant, on est à des niveaux qui sont de 10 à 12%. Nous travaillons avec des chiffres qui nous ont été fournis par nos partenaires. En fait, il est question de 500 milliards de dollars, 5 000 milliards de dollars. Surtout, n'oubliez pas le chiffre. Si jamais vous le réduisez, le coût de ces transferts d'argent juste de 1%, vous donnez aux familles pauvres 5 milliards de dollars par an, simplement en réduisant le taux de 1%. Alors qu'aujourd'hui, nous en sommes à 10-12%, nous voulons essayer de le ramener à 5 ou voire dans l'idéal à 3%, ce qui veut dire 5 milliards de plus pour les familles. Les indices de comparaison des prix en Allemagne, et là je peux vous donner quelques informations supplémentaires si vous le souhaitez, montrent qu'il y a des commissions qui sont imposées par les sociétés de transfert de fonds et les institutions financières avec des taux, et les moments de transfert en fait doivent se faire de manière transparente, de pouvoir le faire de manière rapide et sécure. De plus, les transferts en question sont considérés comme le point d'entrée premier pour à la fois ceux qui envoient et ceux qui reçoivent, et c'est un élément clé du système financier. Ça a été évoqué au forum de politique, et les relations entre le GFMD et le SDG sont implicites et explicites. Et comme décrit dans les précédents rapports, l'acteur est un acteur important, un partenaire important dans la promotion de nos pays, et il faut, pour régler le problème de la migration ou le poste de la migration, des groupes de plus en plus importants aux tables de négociation, et bien évidemment c'est de vous dont nous avons besoin. Pour essayer de le dire en un mot comme à mille, nous avons déjà 10 ans de travail sur la migration et le développement. Nous avons préparé le terrain. Il y a un grand nombre de pays qui sont concernés. Il s'agit de ces mêmes pays qui, aujourd'hui, sont en train de faire le forcing après la résolution de New York sur les migrants d'un côté et la migration d'un autre côté. Toutes les questions relatives à la migration qui sont traitées et en septembre 2018, l'idée c'est qu'il devrait y avoir ce que j'appellerais un groupe spécifique migration qui devrait nous permettre d'avancer en ordre rangé sur le terrain de bataille. Nous préparons nos rapports. Nous souhaiterions qu'en août-septembre de l'année prochaine, nous ayons quelque chose qui ne soit pas d'ordre contraignant sur le plan juridique, mais qui soit un engagement politique, c'est-à-dire qu'il y ait un engagement moral politique, ce qui veut dire que les États vont déclarer comment ils vont promouvoir, quelle est leur intention pour promouvoir des mesures juridiques pour promouvoir la migration légale, lutter contre les traites, les trafics, réduire les commissions et les prix de recrutement. Nous avons vu que parfois ça peut représenter toute une année de salaire. C'est ça le contexte idoine dans lequel vous devez intervenir. Et je vous implore à inciter vos gouvernements à demander à nos différents parlements qu'est-ce que vous, les agents gouvernementaux, faites pour essayer de favoriser la migration légale, pour lutter contre les flux illégitimes ou illégaux. Qu'est-ce que vous faites pour préparer les structures d'éducation pour les jeunes migrants, pour arriver à les intégrer dans votre modèle économique? Et là, j'attends avec impatience aujourd'hui, ce soir à la réception et demain, à travers beaucoup de discussions bilatérales, d'évoquer avec vous comment nous, de concert, la main dans la main, pouvons essayer d'inciter vos gouvernements à travailler de manière globale sur ces questions migratoires. Nous espérons pouvoir avoir des discussions fructueuses à ce sujet.
Thank you, Mr. Ambassador.
Merci, Monsieur l'Ambassadeur. Et maintenant, je vais donner la parole à Monsieur Felipe de Botton, notre autre intervenant clé du Portugal. Il a travaillé depuis longtemps dans le secteur de l'économie, du secteur financier, etc. Et il est président du Conseil portugais de la diaspora.
Thank you, President. Thank you to everybody, the deputies.
Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Alors, je me sens un peu comme un poisson hors de l'eau dans une assemblée telle que celle-ci, parce que, en fait, quand nous avons créé le conseil, qui s'appelle le Conseil de la Diaspora Réunie, il s'agit d'une organisation portugaise, et nous l'avons constituée en 2012, et c'était quelque chose qui était véritablement le fruit d'une initiative de la société civile. Nous avons décidé de réunir tous les Portugais qui sont à l'extérieur avec les Portugais de l'intérieur. Nous sommes un pays relativement petit, 10 millions d'habitants. Vous devez le savoir sans doute, mais il y a 5 millions de Portugais qui vivent à l'étranger. Donc nous avons pensé qu'il était important de créer une jonction, un pont entre ceux de l'intérieur et de l'extérieur pour essayer de faire des effets de levier pour aider ceux qui aident le Portugal et vice-versa. Donc j'écoutais avec attention les présentations très intéressantes de mes deux collègues m'ayant précédé à la tribune sur la diaspora qui réunit ceux qui sont à l'extérieur et ceux qui sont à l'intérieur, ce qui est précisément ce que nous avons fait pendant les 4 années qui viennent de s'écouler. C'est fondamental pour tout pays et plus particulièrement pour le Portugal aujourd'hui. Donc, en résumé, je vais vous expliquer comment nous fonctionnons. Nous ne sommes pas un exemple pour qui que ce soit. Nous ne voulons absolument pas donner de leçons à qui que ce soit. Mais notre truc marche, et pas seulement il marche, mais encore, en fait, nous avons le sentiment que nous sommes au tout démarrage de ce que nous en attendons. Nous avons quelque chose qui nous permet d'avoir une attitude pratique et qui nous permet de réfléchir à des solutions, à des problèmes et pas juste faire de beaux discours. Nous essayons de mettre en œuvre des politiques qui doivent réunir les gens. Démarrage en 2012, en fait de 2004 à 2012, nous avons tenu ce que nous appelons chez nous un conseil de mondialisation avec une invitation une fois par année à faire une session de remue-ménage avec des représentations de grosses multinationales, Toyota, Cisco, De Castel, etc., Siemens, SCP, j'en passe, et des meilleurs de tous les pays, et d'essayer de réunir ces chefs d'entreprise pour discuter avec le président portugais et à l'époque aussi avec le président de l'époque, M. Barroso, pour essayer de voir quelles étaient les tendances et qu'est-ce qui pourrait se dessiner pour les années à venir. Je me rappelle en 2007 avoir discuté de la crise des subprimes avec les banquiers les plus influents d'Allemagne et du Royaume-Uni. Et ceci était extrêmement incisif en disant que la crise des subprimes serait très locale, qu'elle ne se répandra pas en dehors des États-Unis, qu'elle ne contaminerait pas le reste du monde. Et puis nous avons vu ce qui s'est passé dans la foulée. Donc en 2012, nous avons pensé qu'il était important que l'on réunisse ces 5 millions de Portugais de l'étranger pour essayer de faire une cartographie de ce qui, disons, les 100 Portugais travaillant à l'étranger pour des organisations non portugaises ou des entreprises non portugaises qui seraient décidées à aider. Donc ce sont des Portugais, entre guillemets, d'influence que l'on pourrait essayer de réunir pour constituer des piliers. Bien sûr, il s'agit de volants d'affaires importants, d'entreprises très importants, mais cela veut dire aussi aller bien au-delà des liens économiques, mais les arts, la science, la citoyenneté, donc les 4 piliers sur lesquels nous avons commencé à travailler pour faire une cartographie. Il y a eu donc 95 conseils de la diaspora travaillant sur ces piliers pour essayer de mettre en œuvre des plans différents pour le Portugal. Nous avons pensé que par-delà le fait d'être une idée issue de la société civile, il fallait avoir pour président notre propre président de la République et le ministre des Affaires étrangères aussi, parce que nous avons pensé qu'il était très important de réunir le gouvernement, le président, pour éviter certains tiraillements, comme ça peut se passer en politique, entre ces différentes entités. Et donc ceci a été fait à la portugaise, de sorte à atteindre un certain niveau d'harmonie. Nous avons démarré le travail donc en 2012. Et toujours articulé sur des thèmes précis. par exemple, une initiative sur le cancer pour faire de la prévention du cancer au Portugal et pour économiser 2 milliards par an d'euros sur la mise en œuvre de nouvelles méthodologies et travailler avec certaines institutions de Houston aux États-Unis, des initiatives pour les biotechnologies à travers notre communauté de San Francisco. Nous avons amorcé une nouvelle loi de sorte à ne pas permettre à des sociétés portugaises et au gouvernement de recevoir des financements par des groupes financiers. Nous pensions que, islamiques, nous pensions qu'il était très important de réunir l'Afrique et l'Europe. Nous avons lancé pendant ces années des initiatives privées dont nous pensions qu'elles étaient importantes pour donner une autre image du Portugal et pour que ceux de l'intérieur influent sur ceux de l'extérieur et vice-versa. Nous avons pensé qu'il était impossible de ne travailler qu'avec ma génération, mais de réunir beaucoup de personnes. Comme c'est le cas dans beaucoup de pays, il y a beaucoup d'associations aujourd'hui, de jeunes, d'étudiants. Nous avons démarré la cartographie en question. Par exemple, il y a une carte de 10 000 scientifiques portugais vivant à l'extérieur depuis des années. Nous avons décidé de réunir ces associations. Le Conseil aujourd'hui va réunir environ l'équivalent de 30 000 personnes vivant à l'étranger en essayant d'aider le pays. Et c'est un peu ce que nous avons essayé de faire dans le passé. C'est financé à 100% par les membres. Nous ne voulons pas de financement gouvernemental ou communautaire. Nous pensons que ces institutions, telles que le Conseil de la Diaspora, doivent être parfaitement indépendantes et que nous devons être en capacité de créer nos propres initiatives. Nous travaillons en coopération entière et totale avec les circuits diplomatiques portugais. Nous avons des conseillers dans 45 pays qui travaillent en étroite collaboration avec les ambassadeurs parce que nous pensons qu'un ambassadeur finalement peut être en poste pendant 3, 4, voire maximum 5 ans, ne peut pas avoir la même logistique, la même compétence, le même savoir de la société dans laquelle il vit si on compare avec quelqu'un qui a été là depuis 30 ou 40 ans et qui a émergé comme un génie des arts, des sciences ou de la culture et qui a une capacité, une vocation beaucoup plus naturelle à introduire le pays à tous les effets de la société. Donc nous avons besoin de travailler de manière précise avec cela, mais aussi avec les ambassadeurs. Voilà, ça c'est ma contribution pour le Conseil de la Diaspora. Merci de votre invitation et merci d'être venu au Portugal.
And our final keynote speaker.
Notre dernier orateur de cet après-midi est Monsieur Jean-Christophe Dumont. Il a un doctorat en économie du développement et il est chef du département de la migration internationale de l'OCDE. Il dirige également une publication sur les migrations et qui s'appelle International Migration Outlook et c'est un spécialiste, un expert en migration aujourd'hui. Mesdames et messieurs les parlementaires, c'est un honneur que d'être ici aujourd'hui et de participer au lancement de ce réseau. J'ai cru comprendre que je suis le dernier orateur de cette conférence. Vous avez entendu beaucoup de données et mon exposé en est truffé. J'essaierai cependant d'être bref. Vous avez entendu parler des 64 millions de migrants dans le monde aujourd'hui, dont il faut se souvenir qu'il y a 20 ans, il y en avait beaucoup moins, plusieurs millions de moins. Donc le nombre de migrants, même si le pourcentage reste stable au cours des années, le nombre des migrants augmente très rapidement. 150 000 vivent dans l'OCDE, 80 dans les pays européens, je ne parle pas de l'Union européenne. Et Et donc, ces migrants ont un vaste éventail de compétences et donc ils représentent un grand atout en matière d'économie et pour les sociétés dans les pays hôtes. Mais c'est également un potentiel formidable pour leur pays d'origine. Nous avons entendu l'ambassadeur Schmidt-Renner qui nous a parlé de l'importance des envois de fonds et ce qu'il faut être, ce qu'il faut faire à cet égard. Mais la contribution des migrants va bien plus loin que l'envoi de fonds. Et ce sont des ressources et des compétences humaines qui sont souvent sous-estimées et qui la plupart du temps sont sous-utilisées. Environ un tiers des migrants qui sont arrivés au cours des 5 dernières années dans les pays de l'OCDE ont un diplôme du niveau tertiaire. Donc un tiers d'entre eux, 40% des migrants européens ont ce genre de diplôme. La contribution des diasporés au développement économique et social de pays hôtes et des pays d'origine, il faudrait peut-être se souvenir que les migrants peuvent contribuer plus qu'au développement de leur propre pays, mais à celui de toute leur région. Et du fait de leurs compétences, de leur degré d'organisation, mais cela dépend également de l'organisation dans leur pays d'origine. Mais on ne doit pas oublier que les migrants peuvent certes apporter une forte contribution, mais qu'ils ont besoin d'un environnement qui soit favorable, et qu'il s'agisse des institutions et de la sécurité dans les pays d'origine. Les gouvernements des pays hôtes et des pays d'origine peuvent faciliter ou gêner la participation des migrants de différentes manières, notamment en ouvrant des canaux de communication, créant des environnements favorisant l'acquisition de compétences et la mobilité. Toutefois, pour pouvoir atteindre cet objectif, une connaissance précisée de diaspora est essentielle. C'est d'ailleurs l'une des recommandations clés du GFMD. Et je pense que c'est le manque de statistiques, d'informations statistiques avec beaucoup de chiffres qui ne sont pas toujours cohérents. Et nous connaissons certes des chiffres, mais nous ne savons pas véritablement qui sont ces gens, quel est leur profil socio-économique, depuis combien de temps ont-ils quitté leur pays, quelle est leur situation familiale, ont-ils des enfants, sont-ils mariés avec un ressortissant de leur pays ou d'un autre pays. Donc nous avons des chiffres globaux, mais nous avons de très grosses lacunes d'informations pour ce qui est du profil précis et défini des membres de cette diaspora. Afin de combler cette lacune, l'OCDE, l'Agence française de développement, l'Agence française pour l'aide au développement, ont lancé une recherche d'informations en fonction des pays d'origine pour les migrants des pays de l'OCDE et plus encore puisque nous avons regroupé 100 pays de destination, ceci en collaboration avec la Banque mondiale. Ces données sont présentées dans la publication que voici. Profil global des diasporas. La toute dernière édition est de 2015. Je serai heureux de vous en l'envoyer sous format électronique si vous le souhaitez. Et non, il y a 140 notes par pays qui montrent les signes, les caractéristiques, la dynamique des populations par ces pays et par pays de naissance. C'est une élimination. Nous nous sommes concentrés sur le pays de naissance et non pas sur le pays de nationalité. C'est le mieux que l'on pouvait faire. Et surtout sur les enfants des émigrants, la deuxième génération. Et nous avons des informations sur les résultats sur le marché du travail de vos diasporas, donc dans les pays de destination, et de l'information sur l'immigration et des tensions dans les pays, combien des intentions d'immigration, combien de personnes sont prêtes à quitter leur pays et dans quel pays veulent-ils aller en fonction de leur formation, de leurs compétences, de leur âge. Et je pense que toute cette information sera très utile utile pour vos réseaux et je suis prête à vous la fournir. L'OCDE fait également des études de cas en profondeur et recueille les données qui s'y rapportent. Notamment, on a parlé de l'Allemagne et du Maroc, monsieur l'ambassadeur, et nous avons fait des études de cas sur ces deux pays. Peut-être devrais-je vous donner ces données. Nous penchons sur la Tunisie. Nous avons analysé la Roumanie et une série de pays en Afrique occidentale. Et je crois que la France et le Royaume-Uni pourraient également être très intéressants pour ce type d'analyse en profondeur. Donc, on voit ainsi émerger des nouveaux schémas de migration qui nous permettent de mieux savoir comment les migrants et leurs descendants peuvent contribuer au développement et à l'évolution de leur pays d'origine et leur pays de destination. Quelques éléments, la diversification des mouvements migratoires. L'Espagne et l'Italie reçoivent actuellement autant de migrants du Sénégal et du Maroc que la France. Et la diaspora kenyane a connu une baisse au cours des dernières années au Royaume-Uni. Elle se rétrécit alors qu'elle a doublé aux États-Unis. Donc, de profonds changements quant au pays d'origine et au pays d'accueil. Et nous essayons de suivre ces changements en temps réel. Et c'est essentiel pour pouvoir avoir des politiques ciblées en matière de la participation des diasporas. Nous avons également des données sur les diasporas de gens hautement qualifiés. Le chiffre global de ces migrants dans les pays de l'OCDE a augmenté de 30%. Et donc, cette tendance est très forte. Elle va en s'accélérant. 35 millions détiennent ce type de diplôme tertiaire. 1 million ont un doctorat et sont nés à l'étranger. Donc, faire participer avec une diaspora toujours plus qualifiée permet une grande contribution. Mais il y a également d'autres possibilités et il faut s'en souvenir et avec des coûts d'opportunité qui sont très élevés. Cela implique que l'on doit adapter nos politiques pour créer la confiance, réduire les biais administratifs ou les préjugés administratifs. Ce ne sont que de premières étapes et il faut également associer le secteur privé. Et nous venons d'entendre une expérience portugaise qui est tout à fait intéressante à cet égard. Ce n'est pas un exemple de meilleure pratique peut-être, mais c'est très intéressant de s'y attarder. Et une autre conclusion que l'on peut retirer de ces données, c'est le nombre croissant de femmes migrantes. Un migrant sur deux est une femme. Les femmes entament la migration de plus en plus souvent, c'est-à-dire qu'elles ne se contentent pas de se retrouver une personne qui aura déjà émigré. C'est la première personne de la famille qui émigre et peut-être épouse quelqu'un du pays d'origine qu'elle rencontre. Et si vous vous concentrez sur les flux récents, la proportion des migrants qualifiés est plus élevée chez les femmes que chez les hommes. Donc, non seulement la migration se féminise de plus en plus, mais les femmes migrantes sont extrêmement qualifiées et on le comprend pour plusieurs raisons. Les possibilités couvrent la migration à ces femmes très qualifiées et pour ce qui est également de la demande dans certains pays. Et puis, les attentes spécifiques des femmes migrantes pour ce qui est de leur participation au développement économique et social de leur pays d'origine par la création d'entreprises. Voilà qui sera extrêmement utile pour la conception des politiques de diaspora. Donc, ces politiques de diaspora devraient également s'attacher à l'élément genre. Voilà ce que j'aimerais vous suggérer. Enfin, je voudrais parler des enfants qui sont nés à l'étranger. Il y a un chiffre total de plus de 50 millions dans les pays de l'OCDE, bien entendu. Et c'est un phénomène qui est très plus signifiant pour certains pays d'origine qui ont des relations de longue date avec les pays d'accueil, mais cette tendance se constate partout et dans tous les pays d'origine. Beaucoup de ces descendants ont des liens étroits avec le pays de naissance de leur pays et contribuent à leur évolution grâce au multiculturalisme. Et c'est un élément qui ne devrait pas être négligent, car les aspirations de ces groupes doivent être recensées, connues, et les politiques doivent être adaptées dans ce sens. Une politique pour soutenir les diasporas doivent être prêtes à accueillir le changement, mais également se débarrasser de certains préjugés. Et j'aimerais évoquer quatre principes essentiels, si vous me le permettez, pour conclure cette présentation. Tout d'abord, il est nécessaire de mieux comprendre les besoins et les aspirations des diasporas, car ce n'est qu'en répondant à ces besoins et ces aspirations que les politiques que l'on mettra en place permettront de mobiliser leur potentiel. Et comme je l'ai dit, c'est le cas pour les personnes hautement qualifiées, et cela fait appel à une relation de confiance et à des canaux de dialogue qui sont formels. Et la représentation politique et le rôle des associations de migrants est essentiel. Deuxièmement, il faut établir une distinction claire entre les politiques qui à l'appui des mobilités, notamment pour le retour dans le pays d'origine, et celles qui ont pour but l'installation des migrants. Par le maintien de pays d'origine et par le biais de leur contribution. Trop souvent, la contribution économique des diasporas ne se concentre, on a été réduit qu'à une migration de retour et à des envois de fonds. Aujourd'hui, il y a bien d'autres matières de maintenir ces liens tout en conservant ces contributions, comme on vient de le voir dans l'allocution du représentant portugais. Troisièmement, il faut rappeler qu'une agression réussie sociale et économique dans le pays de destination est une condition préalable pour pouvoir apporter une contribution précieuse dans le pays d'origine. Ceux qui sont inclus ou dans une situation précaire sur le marché du travail dans le pays hôte n'ont pas les ressources nécessaires pour pouvoir contribuer au développement de leur pays d'origine. Cette contribution et leur intégration dans le pays hôte sont les deux faces d'une même pays. Il s'agit de la coopération entre les deux types de pays d'origine et de destination, et ceci pour garantir que les diasporas, les migrants ont accès aux droits sociaux, à la reconnaissance de leurs compétences, à l'accès à l'éducation et que la formation est disponible pour eux. Voilà qui implique un dialogue constructif entre pays d'origine et pays d'accueil. Et enfin, il serait judicieux de maintenir un équilibre entre les conditions qui sont offertes pour les membres de la diaspora pour les mobilisations ne soient pas perçues par les non-migrants comme une forme de favoritisme, car on courrait alors le risque de créer un facteur de stimulation pour une migration accrue, parce que les gens penseraient n'obtenir ces conditions spéciales qu'à la condition de devenir migrant, ou alors créer un retour de manivelle dans le pays d'origine par rapport à la contribution que pourraient apporter les migrants. Donc, équilibre entre encouragement et équité est très importante. Et j'ai encore quelques chiffres et quelques réflexions que j'aimerais vous aurez livrées, car je pense qu'elles seraient utiles pour le réseau parlementaire, mais je pense qu'il suffira de dire que l'OCDE est prête à collaborer avec vous de la façon qui vous semblera la plus utile. Merci.
Je remercie tous les intervenants clés pour leur discipline. Nous revenons dans le fil de notre programme. Il y a juste deux personnes qui sont inscrites aux interventions. Je demande Madame Kassabitouma, qui représente la plateforme des femmes congolaises en Belgique,
Merci, Madame la Présidente. Alors, nous sommes en train de parler de la contribution des diasporas au développement des pays d'origine. Et moi, je voudrais vous donner deux expériences que nous avons vécues et que je trouve importantes. Pourquoi ? Parce que il y a une contribution, il y a des contributions qui peuvent être individuelles, mais il y a aussi des contributions qui peuvent être organisées en petits groupes. Et c'est de ce deuxième type de contribution que je voudrais parler. Nous avons participé en tant que femmes de la diaspora congolaise de Belgique à deux reprises à la préparation des élections qui ont eu lieu chez nous dans notre pays. Nous sommes partis 11 personnes, 11 femmes, et nous sommes partis deux à deux dans les provinces du Congo. Et là, nous avons travaillé avec les femmes qui étaient sur place, les femmes parlementaires, mais aussi d'autres femmes, les femmes des églises et les femmes de toutes catégories confondues. Nous avons travaillé à la préparation de ces élections. C'est une expérience très importante et très enrichissante parce qu'elles ont vu que nous avons aussi des choses à apporter que nous amenons de nos pays d'accueil parce qu'elles ont la connaissance, elles ont l'expertise, mais elles n'ont pas toujours les instruments nécessaires pour approfondir le travail. Et nous, ce que nous avons apporté, là, c'est des méthodologies de travail pour pouvoir sensibiliser les personnes. Alors, dans ces expériences que nous faisons, il y a aussi des expériences individuelles des femmes qui partent en Afrique, pas seulement au Congo, hein, pas seulement en RDC, mais par exemple aussi au Bénin, par exemple au Mozambique, qui travaillent là-bas avec des personnes là-bas pour mettre en place des expériences d'autonomisation des femmes. Ce sont des petites expériences, mais qui donnent une plus-value des femmes qui sont dans la diaspora par rapport au pays d'origine. Alors, il y a un point de réflexion que je voudrais soumettre à l'Assemblée ici. C'est le point suivant. Que faut-il faire pour qu'il y ait quand même un dialogue entre les responsables politiques des pays d'origine et les responsables politiques des pays d'accueil, de façon à ce que l'apport, la contribution de ces femmes de la diaspora par rapport à leur pays d'origine soit peut-être plus maximisé. Parce que je veux dire avec ça que ces contributions ne sont pas toujours reconnues à leur juste valeur, y compris en ce qui concerne le plan financier. Très souvent, les femmes, elles payent elles-mêmes, elles retournent dans les pays d'origine, elles donnent des prestations à l'université, y compris à l'université, parce qu'elles ont fait des doctorats et elles considèrent qu'elles ont un apport à apporter. Alors, ce que je voudrais demander ici, c'est essayer de trouver un mécanisme qui permet de faire en sorte qu'en dialogue entre les pays d'origine et les pays d'accueil, on puisse trouver un moyen de valoriser à sa juste valeur ces contributions que les femmes apportent, y compris sur le plan financier. Je vous remercie.
Thank you very much.
Merci beaucoup. J'ai parlé trop vite. Nous avons encore quelques inscrits sur la liste des orateurs. Je vous invite donc à être bref et à ne vous exprimer que pendant deux minutes. Monsieur Billy, qui représente une ONG turque en Allemagne. Merci beaucoup. Excellences, mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs, je voudrais moi aussi remercier tous ceux qui ont organisé cette conférence conférence importante et nécessaire. Je me présente, je suis secrétaire générale de l'Union européenne des démocrates turcs. Nous avons plusieurs dizaines de bureaux en Europe. Et je voudrais également susciter votre réflexion évoquer divers aspects qui méritent qu'on s'y attarde. Premièrement, la cause de la migration, la raison de la migration, elles sont plurielles. Les collègues palestiniens ont parlé de l'occupation, il y a la guerre, il y a l'occupation. Et puis une autre raison est de savoir comment venir en aide à ceux qui sont encore dans les pays de départ, venir en aide aux migrants et aux réfugiés. Et les réfugiés sont de futurs migrants. Il convient qu'on s'en souvienne. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour parler surtout de la diaspora ou des diasporas. Nous l'avons dit ce matin, tout un chacun en Europe et ailleurs devrait avoir la liberté de conserver sa culture, sa religion et ses traditions. Mais en particulier en Allemagne et en Autriche et dans d'autres pays, politiciens font entendre leur voix en parlant de la même culture. On ne sait pas vraiment de quoi il s'agit. On a vu un ministre à la télévision qui parlait de light culture. C'était un ministre de Bavière. Et on ne sait pas vraiment de quoi il retourne. Et nous, en Europe, nous n'en avons pas besoin. Nous avons besoin d'être acceptés au point de vue culturel. Voilà qui est très important, à mon avis. Enfin, un bref commentaire pour M. Achotian, le parlementaire arménien, qui a parlé d'une recommandation de M. Erdogan pour ce qui est des élections allemandes. Une recommandation adressée aux Turcs allemands en Allemagne. Lorsqu'il critique M. Erdogan, il devrait également critiquer le gouvernement allemand pour les commentaires et les actions au cours du référendum portant sur les changements constitutionnels. Vous savez qu'il y a des annonces à la télévision et à la radio allemande qui diffusent de l'information sur la façon, sur ce que serait une nouvelle constitution. Donc, c'est la même chose. Soyez donc juste et traitez de ces questions-là également. On peut évoquer nombre de ces sujets par rapport à l'Allemagne et si nécessaire, je pourrais vous en informer. En fin de compte, j'aimerais vous dire que pour ce qui est, je me réjouis de voir quel sera le suivi de cette conférence. Maintenant, trois parlementaires s'aimeraient s'exprimer. J'aimerais vous demander d'être bref, 2 minutes chacun. Monsieur Couscous du Maroc.
Merci, Madame la Présidente de séance. Permettez-moi d'abord de remercier les différents participants, les différents intervenants de leur contribution très intéressante. Et je suis obligée d'aller un tout petit peu vers l'arrière parce que j'aimerais essayer de revenir sur ce qui a été dit par M. Eduardo Cabrita dans la précédente session. Il parlait de statistiques, il citait des chiffres, il parlait de mesures et d'initiatives qui sont entreprises par le gouvernement du Portugal pour essayer d'aider les migrants. Bien évidemment, cette politique est organisée, mais il n'est pas possible qu'elle soit généralisée ou il n'est pas logique non plus qu'elle soit mondialisée parce que tous les pays ne peuvent pas entreprendre la même approche. Malheureusement, il y a un certain nombre de pays de migration dans lesquels on voit des recrudescences fortes du racisme, de la xénophobie, avec des discours populistes de plus en plus virulents et finalement de plus en plus l'émergence de discours de haine et de rejet de l'étranger. Alors nous, représentants d'institutions gouvernementales, nonobstant le fait qu'il s'agisse de pays d'accueil ou de départ, nous essayons de traiter de la diaspora comme étant une caractéristique particulière dans un contexte social ou sociologique particulier avec des conséquences particulières et qu'il faut de ce fait essayer d'intégrer dans la Constitution des éléments qui empêchent l'intégration ou qui empêchent cette assimilation culturelle. Il est très important, pour ne pas dire fondamental, que pour les circuits de la diaspora, il y ait un accord entre les peuples et les cultures, de sorte à ce que chacun puisse profiter des fruits de cet investissement et bénéficier des fruits de la démocratie et d'une survivance paisible des civilisations les unes avec les autres. Je ne veux pas prolonger le discours, mais je constate que depuis ce matin, il y a un sujet qui n'a pas été abordé et qui est le rôle qui peut être joué par les médias pour ce qui est de la préservation de la pluralité politique et de ce qui peut se passer comme foisonnement au sein de ces sociétés qui accueillent les migrants. C'est quelque chose de très important. Il y a nécessité de reconnaître les efforts déployés par les étrangers et les migrants et écouter leurs différentes entreprises, y compris politiques fructueuses, et ne pas se contenter simplement de faire un discours ou d'employer un fil narratif pacifiste, simpliste. Il faut essayer de faire en sorte que participent les migrants au développement de leur pays d'origine en faisant ce que disaient les intervenants à cette tribune. Nous savons que les migrants, de manière générale, participent, et ça c'est quelque chose qui est présent dans nos esprits, en fait, ils participent du développement de leur pays de départ, et en fait, ils peuvent être très bénéfiques pour le développement de toutes les sociétés, origine ou pays d'accueil, participer à travers des investissements à tous les niveaux, dans les deux pays. Mais il est très important de revenir sur le fait que cette participation ne doit pas s'arrêter, et c'est quelque chose sur quoi nous insistons beaucoup. Nous sommes des pays de départ ou des pays d'origine. En Afrique du Nord, il n'est pas possible de répondre à toutes les attentes, et plus particulièrement les attentes de certains pays d'Afrique du Nord, compte tenu de certaines considérations sur lesquelles je pourrais vous parler abondamment. Je dirais là le côté exempt, le côté très faible de ce que j'appellerais l'effet multiplicateur pour ce qui est du travail en développement économique. Il s'agit de choses qui doivent être faites pour essayer de soutenir les circuits de la migration. Dernier point, les attentes sont extrêmement élevées. Merci beaucoup.
Thank you. And now we have two.
Merci beaucoup. Et maintenant, nous avons deux représentants du Parlement d'Égypte, Monsieur Mustapha. Permettez-moi d'abord de remercier l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe et le Parlement européen, le Parlement portugais. Je ne veux pas monopoliser la parole. Nous avons entendu beaucoup de nos collègues évoquer des sujets qui sont importants pour nous. Mais il y a un point sur lequel j'aimerais insister. L'Égypte est un pays à grosse population, 100 millions d'habitants. Et aujourd'hui, elle connaît des crises économiques qui sont importantes. Et nous essayons, dans la mesure de possible, d'essayer de favoriser le développement de l'économie en Égypte. De ce fait, nous savons qu'il y a plus d'un million de Syriens en Égypte. Je dirais mes frères syriens. Je ne veux pas les appeler des migrants, je ne veux pas les appeler des étrangers qui viennent, ce sont des frères. Il y a aussi des Irakiens, il y a aussi des Libyens. Il y a eu un certain nombre de décisions ministérielles qui parlaient de la nécessité de leur donner les mêmes possibilités dans les circuits de formation, qu'il s'agisse des écoles ou des universités. Donc, traitement sur pied d'égalité totale. Ils vivent parmi nous, ils vivent avec nous. Et en réalité, ils ne sont pas du tout dans des campements ou dans des zones retranchées. Ils vivent avec nous, comme les frères que nous sommes, dans des habitations conjointes et communes. Ils travaillent dans les différents secteurs, y compris le secteur privé. Ils ont une liberté parfaite d'œuvrer dans le secteur privé et dans les transferts de leurs fonds.
C'était quelque chose que je souhaitais évoquer parce que finalement nous invitons ces frères chez nous compte tenu de des catastrophes dans leur pays et tous ces pays tels que la Syrie, l'Irak, etc. Merci beaucoup.
Mm-hmm. Thank you, Mr. Talat.
Monsieur Talat. Merci. Merci, Madame la Présidente. Alors, il y a quelque chose que je souhaiterais évoquer qui me paraît important. Il s'agit des dissensions des intérêts politiques du pays de migration et des pays d'origine. En fait, il y a un prix qui est à payer et qui est payé par les migrants. Je pense qu'il est très important que l'on conclue ici que l'on essaye d'arrêter ces tiraillements politiques entre les pays d'origine et les pays d'accueil qui pourraient faciliter la situation. Très important aussi de revenir sur le chapitre du terrorisme qui a épouvanté le monde récemment. En fait, chaque fois qu'il y a un événement politique, nous jetons l'Europe sur tous les circuits de migrants d'une manière injuste. Ils ne sont pas responsables de ces opérations terroristes. Ça, c'est le point numéro un. Ensuite, nous, les Égyptiens, nous sommes obligés de faire face à des attaques en règle de la part des Libyens, par exemple, des opérations de meurtre organisées. Il y a ce phénomène qu'il faut prendre en considération. Chaque pays dans lequel il y a des crimes à l'encontre des migrants doivent rendre des comptes au niveau des gouvernements pour tous ceux qui ont eu à pâtir de l'injustice. Il y a aussi autre chose qu'il faut aborder, il s'agit de la migration illégale pour laquelle nous avons fait une loi pour essayer d'organiser les réponses inadéquates de ceux qui essayent de traiter la question. Il est très important que l'on travaille au sein des pays contre ce phénomène, un phénomène qui s'élève à une proportion de 13%. En fait, aujourd'hui, s'il n'y a pas de véritable développement économique, nous n'allons pas être en mesure de travailler sur des circuits de migration légale et légitime d'une manière efficace. Nous avons de bons profils d'investissement, mais il est très important que l'on mette un terme à l'immigration illégale et finalement, toutes les personnes qui sont concernées par ça doivent prendre en compte le fait que cette immigration illégale est une des parties graves du problème qui nous préoccupe.
Thank you.
Merci. Voilà une journée qui ne peut que nous inciter à réfléchir. Nous allons poursuivre ces réflexions au cours du dîner. J'aimerais saluer et remercier tout le monde. Nos bus nous attendent. Ils vont nous ramener à nos hôtels. Ensuite, vous aurez un petit peu de temps pour souffler, pour vous changer et nous allons vous emmener dans un restaurant pour le dîner. Je vous attends avec impatience de vous retrouver pour le dîner.
Hein?